Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Une chaleur accablante sur presque toute la France. 78 départements en vigilance orange canicule. Nous serons en direct de Marseille où le thermomètre affiche déjà 26 degrés. La nuit, en plein jour, l'éclipse solaire, c'est ce soir un spectacle compliqué à observer au volant. Les forces de l'ordre redoutent de nombreux accidents sur la route. Et puis le sursaut de l'Olympique lyonnais qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions grâce à sa victoire 3-0 au match retour contre le Sparta Prague.
C'est presque devenu la norme. Depuis le début de l'été, la France vit déjà sa cinquième vague de chaleur.
C'est presque toute la France qui est en orange aujourd'hui. Vigilance canicule dans 78 départements. Il n'y a qu'une petite partie du nord-est et quelques départements dans le sud-ouest qui échappent pour l'heure. Le pic est attendu demain et nos organismes ne s'y font pas. Anna Jojard, correspondante d'RMC dans le sud-est. Vous êtes en direct de Marseille ce matin où l'on se réveille un peu difficilement après une nuit tropicale.
Et oui, ici le thermomètre n'est pas descendu en dessous des 26 degrés et on le sent bien hein, vers le Vieux-Port où je me trouve. Les murs et le sol renvoient encore de la chaleur, hein, une chaleur accentuée par l'humidité qui renforce une impression d'étouffement. Il fait vraiment lourd, me souffle Sarah, une Marseillaise très matinale en train de promener son chien. Elle a des petits yeux ce matin, elle me raconte que c'est parce qu'elle a du mal à dormir en ce moment.
Elle est fatiguée, on dort mal. Moi, je laisse le volet ouvert. Là où moi j'habite, il y a trop de mouvements. Le bruit, les voitures qui passent, ou avec la chaleur plus ça, ça t'empêche de bien dormir. Et normalement, on devait dormir au moins 8 heures ou 7 heures. Et là, c'est impossible.
Et un peu plus loin, je croise Yann en plein footing matinal.
Un peu d'air quand j'arrive vers le Vieux-Port. Moi, c'est plus l'humidité qui me gêne à cette heure-ci. C'est qu'on transpire sans bouger. Je respire un peu moins bien du fait de l'humidité.
Et avec ces températures la nuit, difficile donc de récupérer après les grosses chaleurs de la journée. On attend plus de 30 degrés ici à Marseille aujourd'hui. Et la nuit prochaine s'annonce encore chaude avec au moins 27 degrés.
Anna Jojard en direct de Marseille ce matin pour RMC. La canicule qui provoque un afflux massif de méduses dans la mer du Nord. C'était déjà arrivé l'an dernier. Ça recommence. Des méduses qui mettent à l'arrêt trois réacteurs de la centrale nucléaire de Gravelines car elles s'engouffrent dans les stations de pompage. Phénomène expliqué par Dominique Malvois, spécialiste à l'aquarium de Nausicaa à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais.
Tous les ans, on connaît des pics comme ça de méduses qui arrivent sur nos côtes. Et c'est un cycle qui est tout à fait alors naturel pour le coup, même si c'est quand même un signe de dérèglement hein, du milieu. Et oui, il faut s'attendre à en avoir comme ça assez régulièrement. La méduse, elle fait partie du plancton, elle aussi, du zooplancton. Et en fait, elle est incapable de lutter contre les courants. Donc en fait, les méduses, elles sont emportées. Et donc, elles vont là, quelque part, où l'emmènent les courants.
Une autre conséquence de ces chaleurs et de la sécheresse, des chutes de pierres en montagne. Deux refuges du Mont-Blanc sont fermés. La mairie de Saint-Gervais en Haute-Savoie appelle les alpinistes à reporter leur ascension.
Ouais, Clara, une chaleur écrasante, d'accord, mais aucun nuage à l'horizon et ce sont des conditions parfaites pour profiter de l'éclipse solaire.
Et oui, c'est ce soir, 27 ans après la dernière en France, une éclipse qui sera presque totale dans le sud-ouest au Pays Basque. C'est le spot parfait en France hein, pour en profiter avec des lunettes spéciales, évidemment. Ça doit débuter aux alentours de 19h20 et durer environ jusqu'à 21h. Et vous serez peut-être sur la route à ce moment-là. Les forces de l'ordre redoutent ce soir de nombreux accidents, Julie Brault.
Les yeux rivés sur le ciel plutôt que sur la route. C'est la crainte du capitaine Fabrice à l'approche de l'éclipse solaire. Lui qui dirige l'escadron départemental de contrôle des flux des Landes prévoit d'envoyer plusieurs dizaines de gendarmes sur les aires d'autoroute pour identifier et sanctionner les conducteurs inattentifs.
Quelqu'un sort son téléphone en conduisant. Les passagers qui veulent une photo, qui font une photo, qui dit au conducteur bah, « ralentis », ça peut créer un accident. C'est pas l'éclipse qui est dangereuse. C'est la combinaison de la visibilité réduite, des conducteurs distraits et puis l'envie de regarder le phénomène en conduisant.
Freinage de dernière minute, usage du téléphone au volant ou encore stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence, voilà les comportements à bannir, tout comme le port de lunettes d'éclipse en conduisant.
Elles sont beaucoup plus sombres, une baisse de la luminosité, donc là aussi, règle de prudence.
Selon une étude américaine, les accidents mortels sur les routes avaient bondi de 31% aux États-Unis lors d'une éclipse solaire similaire en 2017.
Un vaste réseau de trafic de drogue par drone démantelé près de Lyon. Plus de 1800 livraisons illégales la nuit durant 2 mois à la prison de Villefranche-sur-Saône, du cannabis, de l'argent liquide et au final 5 personnes arrêtées. 3 sont aujourd'hui en détention provisoire, Pierre Bazin.
Oui, c'est une opération d'envergure qui a mobilisé pendant 51 jours plusieurs pelotons de surveillance pour identifier les livreurs par drone, mais également la chaîne hiérarchique de ce réseau. 5 personnes, dont un mineur, ont été interpellées par les hommes du commandant Michael Ferreira.
Ce qui frappe dans cette affaire, c'est vraiment l'intensité de l'activité. Donc il a fallu comprendre le fonctionnement de cette organisation, le rôle de chacun. Il y avait véritablement une chaîne logistique derrière tout ça et ensuite décider du meilleur moment pour intervenir.
En moins de 2 mois, ce groupe est soupçonné d'avoir livré près de 1900 colis par drone, un chiffre qui n'étonne pas Cédric Rochy, secrétaire régional UFAP UNSA pénitentiaire.
C'est plusieurs dizaines de livraisons dans une nuit. Je ne sais pas s'il y a des jours où il n'y en a pas, en fait. C'est de la drogue, c'est des téléphones, c'est éventuellement des armes blanches. Je pense à Lons-le-Saulnier où une arme à feu avait été retrouvée. Je ne veux pas savoir ce qui peut arriver dans nos établissements pour que nos politiques réagissent. 95% des établissements ne sont pas en capacité de les stopper efficacement.
Les agents pénitentiaires demandent notamment l'installation systématique de filets anti-drones, plus efficaces selon eux que les brouilleurs qui équipent certaines maisons d'arrêt.
Explication de Pierre Bazin, service police-justice d'RMC. 2 ans de prison ferme pour avoir provoqué 11 départs de feu avec un chalumeau dans les Deux-Sèvres et dans le Maine-et-Loire. Un ouvrier agricole de 45 ans a été condamné hier à Niort. Il a reconnu les faits. En Colombie, le bilan s'alourdit. Le puissant séisme qui a frappé le pays avant-hier a fait au moins 241 morts. Les secouristes s'activent en ce moment pour tenter de trouver des survivants dans les décombres. Donald Trump a bien changé secrètement d'avion face à une menace début juillet. Le président américain l'a confirmé cette nuit, des informations qui avaient été révélées par le Washington Post. Donald Trump exfiltré sur le tarmac d'Ankara en Turquie, où il était pour le sommet de l'OTAN, exfiltré de ce tarmac d'aéroport à cause d'une menace iranienne. On vous racontera tous les détails dans le journal de 8h.
Du football, Clara, et un sursaut d'orgueil pour l'Olympique lyonnais.
Qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions, les Lyonnais ont su se réveiller hier soir contre le Sparta Prague. Ils avaient perdu 2-1 à l'aller, gagné 3-0 hier au retour. Édouard Gey, les joueurs n'ont pas raté le rendez-vous.
Oui, un stade plein, 52 000 personnes au cœur d'un mois d'août où la ville de Lyon, elle, est totalement déserte. Le signal populaire remet d'entrée Loïs Openda et tous ses coéquipiers dans le sens de la marche.
Après le premier match raté, il fallait vraiment réagir et très vite. Et je pense qu'on l'a montré dès la première minute qu'on était là pour gagner ce match et aller chercher un dernier match avant la qualification. Mais je pense qu'on a très très bien réagi, chaque joueur.
3-0 au final avec une équipe qui retrouve au fil de la rencontre ses réflexes de la saison passée. Moussa Niakate, le défenseur lyonnais.
Quasiment tout, même s'il y a encore beaucoup de points à améliorer. Je suis très honnête, c'est un très bon match qu'on a fait, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Tout est loin d'être parfait. Des petits réglages que nous, on sait qu'il faut améliorer, même s'il n'y a pas eu de conséquences.
Ce prochain tour offre une affiche de prestige face à Fenerbahçe, qui fait déjà saliver le capitaine de l'OL, Corentin Tolisso.
C'est un très très bel objectif, et je pense qu'il est important pour moi, mais pour tout le club, pour tous les supporters à l'institution de l'Olympique lyonnais. Et je peux vous assurer qu'on fera vraiment tout pour réussir à se qualifier.
Un match aller de ce barrage déjà programmé mardi prochain à Istanbul.
Et ce soir, c'est le retour du PSG, Paris Saint-Germain, premier match officiel de la saison. La Supercoupe d'Europe, RMC, est en direct de Salzbourg en Autriche pour vous faire vivre cette rencontre entre le PSG et Aston Villa. Les championnats d'Europe de natation, 3 médailles pour la France hier, 3 métaux différents. Du bronze pour Pauline Mailleux sur le 200 mètres d'eau, de l'argent pour Maxime Grousset sur le 50 mètres papillon et de l'or enfin pour les Bleus avec ce même Maxime Grousset sur le relais 4x100 mètres, 4 nages mixte aux côtés de Marie-Ambre Molu, Karl Aïd-Kassi et Marie Vatel, tous très heureux.
Bah, en un mot incroyable, hein. Comme à Paris, dès que je levais la tête, j'entendais le public français.
Ah mais le public est fou, je ne m'attendais pas du tout à ça. Tout le stade qui chante, c'est incroyable, j'ai eu beaucoup d'émotions ce soir. Ouais.
C'est pour ça qu'on fait ce sport, je suis sortie de la Marseille, je me suis dit ça vaut tous les pleurs, tous les sacrifices, tous les moments compliqués, tous les entraînements, tous les réveils à 4h45 du matin. C'est tellement spécial, français à plusieurs, donc voilà, je suis super fière de l'équipe, tout simplement.
les championnats d'Europe de natation qu'on suit évidemment ensemble sur RMC, antenne spéciale chaque jour de 18h à 20h pour suivre les finales. Toutes les équipes d'RMC Sport délocalisées au centre aquatique olympique de Saint-Denis. Une autre médaille cette fois au championnat d'Europe d'athlétisme. C'est la deuxième pour la France et c'est du bronze pour Laetitia Bapté sur le 100 mètres haies. Et puis, on avait parlé en début de semaine de Cristiano Ronaldo, oui, et de sa compagne Georgina. Eh bien, ils se sont mariés. Ils l'ont officialisé. Ils se sont mariés près de Lisbonne, à Cascais, et non pas à Madère où s'étaient massés de nombreux fans, oui, pour espérer voir le footballeur. Voilà, le couple là officiellement annoncé hier.
Merci beaucoup Clara. RMC 7h09. Le prochain journal ce sera à 7h30. Tout de suite, nous allons au 32-16 pour retrouver Vincent. Bonjour Vincent.
Bonjour.
On est par chez moi, on est à Neulémine dans le Pas-de-Calais. Bonjour Vincent.
Bonjour, vous m'entendez bien ?
Oui, très bien. Vous faites quoi dans la vie, Vincent ?
Alors, je suis responsable d'agence.
D'agence ? C'est vaste.
Alors, en fait, je gère une agence de distribution de matériel courant faible, tout ce qui est sécurité, vidéoprotection, alarme, intrusion.
Voilà. D'accord, Vincent. Et là, vous voulez nous parler de l'éclipse de ce soir et de ce, oui, coup de gueule poussé par les écologistes. Tout à l'heure, Anne Souyris, sénatrice, les écologistes étaient avec Victor Pourchet sur RMC. Parce, oui, que les écologistes rouspètent sur l'attitude du gouvernement, pas assez de prévention, pas assez de mise à disposition de lunettes de protection pour ce soir pour voir l'éclipse, notamment auprès des publics les plus défavorisés. Et vous n'êtes pas d'accord avec cette position, Vincent?
Si, en fait, je suis plutôt d'accord, en fait, dans le sens où je pense que le gouvernement aurait pu faire plus de messages de prévention, effectivement, pour aider les populations qui sont un petit peu moins avisées et puis un petit peu moins au courant des faits de société, enfin comme ça peut se passer, et avoir peut-être quelques messages effectivement publicitaires, comme ils savent faire, notamment pour des grandes campagnes comme le Covid. Et ça aurait pu permettre tout à chacun d'avoir le même niveau d'information.
Voilà. Vincent, reste avec nous. De nombreuses réactions également sur le WhatsApp RMC, sur le 06 12 424 424, Victor.
Et on a beaucoup de gens qui d'abord nous disent, d'une part, cette éclipse, on ne l'a pas appris hier. Hein. On l'a appris il y a plusieurs mois, plusieurs semaines. Et il était encore temps de se protéger, de prendre les devants. Et puis on a Hervé et Julien, je les mets dans le même message, je les résume, parce qu'ils sont à peu près les mêmes, qui nous disent il ne faut pas attendre d'être biberonné par l'État. C'est trop facile. Et puis en plus, on n'est pas forcément obligé de la regarder, cette éclipse. Donc ça ne justifierait pas, selon Hervé et Julien, qu'on mette à disposition plus de lunettes de protection que ce qui a été fait.
Vincent, vous comprenez ceux qui disent que c'est pas, on est materné par l'État, que voilà, il faut ça, chacun doit aussi prendre ses responsabilités.
Oui, non, je suis d'accord. Hein. Je pense qu'effectivement, chacun doit prendre ses responsabilités. Par contre, voyez, enfin, tout le monde est au courant, mais. Moi je suis parti du matin au soir au travail,
ouais,
en écoutant RMC où j'ai eu l'information.
Ah bah.
Effectivement,
on sait au moins ça, Vincent. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. Vous allez la regarder l'éclipse ce soir, Vincent?
Oui, tout à fait.
Et en famille, équipé. Entre amis?
En famille.
Bon, ça sera un beau moment à passer en famille. Merci Vincent d'avoir été avec nous. Vous continuez à nous appeler, hein, comme le fait Vincent au 32-16. Dans un instant, sur RMC, 230 caravanes sur une dune protégée de la presqu'île de Quiberon. Dans un instant donc, le parti pris du maire de Plouarnel dans le Morbihan, vent debout contre l'installation de gens du voyage sur ce site classé. C'est dans un instant sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous et à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 8h15, 800 personnes, 230 caravanes de gens du voyage installées illégalement sur une dune classée Natura 2000 sur la presqu'île de Quiberon. On est à Plouarnel dans le Morbihan. Des caravanes installées sur un ancien camping déclassé en 2008. Un premier départ de ces caravanes était prévu le 9 août. Il n'a pas eu lieu. La nouvelle échéance est désormais fixée au 16 août. Bonjour Erwan Delso.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Plouarnel et pour vous, ces gens du voyage doivent voyager. C'est votre parti pris ce matin sur RMC. On est à 96 heures de la fin de votre ultimatum, enfin, en tout cas de l'ultimatum qui a été fixé à cette communauté pour partir, pour quitter les lieux. Quelle est la situation ce matin d'abord sur cette dune?
Bon, écoutez, pour l'instant, ils sont toujours installés sur cette dune. Il y a un accord qui a été passé de façon à ce qu'ils quittent les lieux le 9 qu'ils n'ont pas respecté. Donc, on a maintenant jusqu'au 16. Voilà, c'est inacceptable. On ne peut pas laisser ces gens-là sur un cordon dunaire, un site protégé. Le monsieur lambda ne pourrait même pas y séjourner. Voilà, c'est donc on attend aujourd'hui le respect de leur engagement.
Vous avez pu discuter avec les représentants de ce campement. Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Écoutez, ils sont bien embêtés parce que effectivement, ils ont un pasteur qui est apparemment gravement malade. Pour autant,
parce que c'est un rassemblement évangélique, c'est ça ?
Affirmatif, oui, c'est un rassemblement évangélique. Après. On ne peut pas accueillir toute cette population sur un site qui est protégé. Il y a des lieux, le schéma départemental qui accueille les aires de grand passage est fait pour eux. Et voilà, nous ne pouvons pas accueillir dans les dunes protégées ce groupe.
Et pourquoi ne se sont-ils pas installés sur ce lieu qui leur est dédié justement ?
Parce que effectivement, dans le passé, c'est un camping qui était ouvert en 61, qui a fermé en 2008, comme vous l'avez dit. Ils venaient ici journer. Maintenant, c'est plus le cas. Ça a été reclassé Natura 2000 pour des raisons qui paraît logique. On est dans la dune, on est proche de la mer. Pour l'ostréiculture, c'est hyper important d'avoir une qualité des eaux. Et ça, vous voyez, je comprends pas qu'on laisse faire ça aujourd'hui. Moi, j'ai demandé un PV à l'environnement dans le sens où on ne peut pas laisser impunément se faire ces choses-là.
Le campement qui leur est dédié aujourd'hui, il est loin de là ?
Ah, il est au bord de l'eau.
Le campement qui, parce qu'aujourd'hui, on doit mettre en place des installations, des lieux de campement pour les gens du voyage. Donc j'imagine qu'ils ont déjà un lieu dédié, mais qui n'est plus au même endroit, c'est ça, hein ?
Non, qui n'est plus au même endroit. Il se trouve à 15 kilomètres du côté de Ray, et voilà, ils peuvent les accueillir, tout à fait.
Ils sont aujourd'hui, il n'y a pas d'accès à l'eau, mais malgré tout, ils ont réussi à se raccorder un point d'eau, je crois que c'est une borne incendie, c'est ça qui est à plus d'un kilomètre ?
1,3 km, ils ont réussi à se raccorder à 1,3 km. Il y avait une borne d'incendie dans le passé qui a été retirée, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'installation. Pour autant, ils ont été chercher à 1,3 km de l'eau, plus loin. Alors, on ne va pas enlever toutes les bornes à incendie pour que les gens ne s'installent pas, parce que déjà, les incendies, c'est important, il faut gérer ce problème-là.
Ah oui.
Et par la même occasion, on est en sécheresse, et voilà, on ne peut pas non plus impunément non plus se mettre sur des bornes à incendie.
Comment vous expliquez leur détermination ? Pourquoi y a-t-il... votre commune n'est pas la seule concernée. On voit régulièrement dans la presse régionale, notamment des articles sur des maires qui sont confrontés à ce type de situation. Pourquoi ça passe pas ? Pourquoi le dialogue ne passe pas ?
Ah, je pense qu'il faut en amont anticiper les choses. En fait, il faut pas le subir, mais il faut le vivre. Et effectivement, je pense qu'il y a l'ensemble des maires devraient se dire bon, quoi qu'il en soit, il faut préparer leur venue, même si on ne le souhaite pas. Il faut anticiper les choses par des terrains tampons éventuellement, mais pas sur un cordon dunaire. C'est pas possible. On peut pas entendre ça.
Ils ont jusqu'au 16 août pour quitter les lieux. Qu'est-ce qui se passe samedi s'ils sont toujours là?
Eh ben écoutez, logiquement, ils quitteront les lieux donc le dimanche. J'espère que j'ai soumis au préfet effectivement la possibilité de faire un PV d'environnement. Maintenant, après, ils respecteront leurs paroles. J'ai grand espoir.
Bon, espérons que tout se passe bien. Merci beaucoup, Erwan Delso, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le maire de Plouarnel et on était dans le Morbihan. Merci, monsieur le maire. Dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier sur RMC, l'historien d'Apolline Matin. Chevalier qui va nous parler ce matin, d'un mousquetaire nommé D'Artagnan. Et puis le chiffre du jour avec la fine lame de l'écho. C'est Pierre Rondeau. Pierre, dans la fonction publique, on trouve des primes à qui mieux.
Ah oui, il y a plus de 540 primes différentes. Et tiens, il y en a même une pour le télétravail.
Ah, si je fais du télétravail, j'ai une prime.
Oui.
Pas mal. Allez, dans un instant, je pense que ça va vous intéresser, vous interpeller sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC, 7h22, tout juste. Pierre Rondeau est avec nous.
RMC.
Le chiffre du jour.
Pierre, notre économiste, 543. 543, c'est le nombre total de primes qui existent chez les fonctionnaires.
Oui, 543 primes pour les agents de la fonction publique, représentant près d'un quart de leur rémunération. C'est en tout cas ce que révèle un rapport de l'Inspection Générale des Finances qui appelle à une rationalisation de ce régime indemnitaire, car il pèse énormément sur le budget. Rien qu'en 2025, la somme totale des primes versées aux fonctionnaires représentait 19,1 1 milliard d'euros.
Bon, j'imagine, Pierre, qu'il y a des primes qui sont tout à fait justifiées, d'autres qui le sont peut-être un peu moins.
Alors, si l'on regarde dans le détail, on est quand même en droit de se poser des questions. Par exemple, la prime télétravail, créée au moment du Covid pour compenser les surcoûts de chauffage et d'électricité, elle a bénéficié en 2025 à 243 000 agents pour un coût total de 30 millions d'euros, alors même que le télétravail n'est plus obligatoire. Ou encore l'indemnité de résidence à l'étranger, versée en 2025 à 6 299 agents pour un coût total de 486 millions d'euros et un montant moyen de 77 000 euros par bénéficiaire. Prime qui, selon le rapport de l'Inspection Générale des Finances, dépasserait régulièrement le surcoût lié à l'installation à l'étranger.
Ouais, 77 000 euros, je pense que tu peux bien t'installer.
Oui, c'est ça. Autrement dit, on vous verse cette somme, 77 000 euros, soi-disant pour vous aider à vous installer à l'étranger, alors même que ça ne vous coûte pas plus cher que de vivre en France.
Et bon, il est donc temps de faire quelque chose.
Alors, c'est la conclusion du rapport de l'Inspection Générale des Finances, rationaliser le versement des primes et faire des économies. D'abord, faire une véritable revue des effectif pour puis se poser la question de la légitimité des primes de moins de 100 euros et concernant parfois moins de 100 agents. Alors un exemple, la prime de départ à la retraite pour le personnel marin de l'équipement du ministère de l'économie. Un autre exemple, l'indemnité de chaussures de 45 euros pour certaines administrations territoriales. Ces micro-primes coûteraient extrêmement cher en termes d'organisation et de gestion et le rapport appelle à leur mutualisation, voire à leur suppression, parce que pour rappel, ça coûte au total aux finances publiques 19,1 milliards d'euros par an. Et on pourrait peut-être faire des économies.
19 milliards d'euros par an, ça ferait du bien au déficit, par exemple.
Oui, ça ferait du bien. Bon.
Merci beaucoup, Pierre. On se retrouve après le journal de 8h. Et il n'y a pas que les primes des fonctionnaires qui coûtent cher, il y a aussi le gaz dont les prix s'envolent. Mais jusqu'où s'arrêteront-ils ces prix du gaz, comme le disait Coluche? Eh bien, tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier. Attention, en garde.
Arthur, vous nous allez nous présenter l'un des descendants de D'Artagnan. Dans les Landes, ce maire de 83 ans a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections municipales, mais après 50 ans à la mairie tout de même.
Oui, la première fois qu'il a été élu, c'était en 1976, et à l'époque, il succédait déjà à son père. Mais ce maire avait déjà fait parler de lui pour tout autre chose, puisque cet homme a une particularité. Il serait le dernier descendant de D'Artagnan.
D'Artagnan, le personnage des Trois Mousquetaires.
Exactement. D'Artagnan, c'est d'abord le héros d'un roman, Les Trois Mousquetaires, donc un roman d'Alexandre Dumas qui a été publié au XIXe siècle, d'abord en feuilleton, dans la presse, puis en livre. Et ça a été un succès immédiat. La France se passionne tout de suite pour cette aventure de cap et d'épée. L'histoire, vous la connaissez, Apolline. Rappel, D'Artagnan et ses trois copains, Athos, Porthos et Aramis, sont donc des mousquetaires. Leur métier, c'est protéger le roi Louis XIII contre les complots fomentés par le cardinal de Richelieu et ses sbires.
D'ailleurs, c'était quoi en fait un mousquetaire ?
Alors, tout simplement, un mousquetaire, c'est un soldat qui formait la garde très rapprochée du roi. Aujourd'hui, l'équivalent, ça serait un peu la garde républicaine, si vous voulez. À l'origine, on les appelait mousquetaires parce qu'ils maniaient un mousquet. Un mousquet, c'était les premiers fusils. C'était des trucs énormes. On ne pouvait tirer qu'un seul coup, fallait ensuite les recharger. Mais je vous rassure, comme D'Artagnan, les mousquetaires savaient aussi très bien manier l'épée. Globalement, c'était une troupe d'élite qui savait un peu tout faire.
Donc il a un descendant, donc j'imagine que D'Artagnan a donc vraiment existé.
Mais oui, il a vraiment existé. Alors son nom complet d'origine, c'était Charles Augier de Batz de Castelmore, c'est un peu long. Comme le héros d'Alexandre Dumas, il est originaire du sud-ouest, c'est un Gascon. Et dans la vraie vie, D'Artagnan était effectivement mousquetaire, mais pas du roi Louis XIII, de son fils, le roi Louis XIV, le roi Soleil. Et c'était un des meilleurs soldats de sa génération, si bien qu'il va devenir un homme de confiance du roi. On lui donnait les missions les plus secrètes, les plus périlleuses. Et d'ailleurs, il va mourir en héros pendant le siège d'une ville hollandaise, Maastricht, en 1673. Justement, mourir d'une balle de mousquet dans la gorge.
Comment D'Artagnan est devenu une figure vraiment de la culture populaire ?
Alors, on l'a dit, le livre a été un énorme succès. D'ailleurs, Dumas va écrire plusieurs suites, deux suites. Mais c'est surtout le cinéma qui va populariser les mousquetaires à travers le monde entier. On compte plus de 150 adaptations audiovisuelles des Trois Mousquetaires sur grand ou petit écran. La première, c'était en 1903. C'était un film muet. Depuis, les plus grands acteurs ont joué D'Artagnan, Jean Marais, Jean-Paul Belmondo ou encore Philippe Noiret. Le dernier à avoir tenu ce rôle, c'est François Civil. C'était en 2023. Bref, D'Artagnan, c'est plus qu'un personnage. C'est un modèle de notre culture. Il incarne le panache, le courage, l'amitié, le caractère et tout ça au service de la France.
Arthur, Chevalier, retrouvé en podcast sur l'appli RMC. Dans un instant, la météo avec Charles-Henri Limer, le journal de 7h30 et puis l'éclipse solaire ce soir, la première depuis 27 ans, depuis 1999. Le président de l'Association française d'astronomie est notre invité à 7h40. A tout de suite, bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité, c'est avec Clément Gouiz. Bonjour Clément.
Bonjour Rémi, bonjour à tous. Nouvelle journée caniculaire en France et un calvaire pour les habitants de logements mal isolés. Une situation insolite à Marseille et qui exaspère les habitants du quartier Bonneveine. Ils sont privés de leur courrier à cause d'un désaccord avec la Poste. Et quelle soirée hier pour les Bleus au championnat d'Europe de natation. L'or pour le relais mixte et l'argent pour Maxime Grousset sur le 50 mètres papillon.
Et tout d'abord, Clément, cette affaire qui vire au cauchemar pour 11 Français.
Et ils pensaient partir gratuitement en vacances et ils se retrouvent en prison en Thaïlande, détenus depuis le début de l'été, accusés de trafic de stupéfiants, plusieurs kilos de cannabis retrouvés dans leurs valises. Et Pierre Bazin, du service police-justice d'RMC, ces Français se sont en réalité fait piéger sur les réseaux sociaux.
Oui, selon les proches de certains de ces Français, ils auraient répondu à des annonces Snapchat proposant un voyage gratuit en Thaïlande, avec pour condition d'accepter de transporter une valise à Hong Kong, Londres puis Paris. D'après certains de ces Français actuellement détenus en Thaïlande, ils pensaient transporter des téléphones. Mais lorsque les autorités thaïlandaises ont ouvert les valises cadenassées, c'est bel et bien du cannabis qu'elles ont trouvé. Tous ont immédiatement été placés en détention provisoire après leur arrestation à l'aéroport. Le Quai d'Orsay indique que la situation de ces 11 ressortissants est suivie de près par les consulats à Hong Kong et en Thaïlande. En parallèle, la justice française a ouvert une enquête pour tenter de remonter le réseau qui a proposé ces voyages, alors que le trafic de drogue entre la Thaïlande et la France connaît une importante croissance depuis quelques années.
La France vit au rythme de température suffocante.
Cette cinquième vague de canicule gagne du terrain aujourd'hui et le pic est attendu demain. Et les logements mal isolés deviennent de véritables fournaises avec plus de 38 degrés attendus aujourd'hui à Tours. Les habitants de ces passoires thermiques que vous avez rencontrés, Antonin Audion, sont épuisés par ces canicules à répétition.
Dans cette barre d'immeuble, voilà plusieurs jours que le thermomètre n'est pas tombé sous les 30 degrés. Un supplice pour Natania, 8 ans et demi.
Avec cette grosse chaleur, par exemple, moi, à chaque fois, je me réveille très tôt. Par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillée à 3h du matin. Hier, je me suis réveillée à 6h du matin. J'ai vraiment pas bien dormi.
Un été interminable au 12e étage de cette bouilloire thermique avec sa mère Ruth. Elle reste chez elle pendant toutes les vacances.
C'est vraiment insupportable. On a l'impression d'être sans but, je dirais.
Et lorsque l'on toque ailleurs dans l'immeuble, le constat est identique. Marie-Ange ouvre sa porte, le visage fatigué. Chez elle aussi, les volets sont baissés toute la journée.
Et la peau, elle est collante. On a l'impression qu'on transpire tout le temps. On a envie de tout le temps se laver.
Elle vit avec deux enfants de 6 et 8 ans. Difficile à contenir dans ces conditions.
Dès qu'ils bougent, ils ont chaud. Donc, y a les écrans. C'est la seule solution pour apaiser un peu les choses.
Un étage en dessous, Madina, semble-t-il, a trouvé la parade.
Dans la salle de bain. Ils ont une bassine où ils plongent, ils ressortent et ça leur fait du bien.
Chaque nouvelle vague de chaleur génère chez la trentenaire un sentiment de détresse.
Moralement, ça va pas du tout. Je me dis, là, on a eu 5 vagues. Mais peut-être que là, c'est le début, plus tard, on aura peut-être 6, 7, 8, que sais-je.
Pour l'été prochain, des habitants aimeraient installer des brumisateurs et des jeux d'eau au pied de la tour.
Un risque élevé de feux de forêt dans 45 départements aujourd'hui. Cela concerne la Bretagne, l'Île-de-France ou encore le pourtour méditerranéen des Pyrénées-Orientales jusqu'au Var.
À Marseille, des habitants ont des boîtes aux lettres. Bon, ça, c'est pas une information. Ils en ont, certes, mais pas de courrier.
À Bonneveine, dans une résidence neuve, la Poste refuse de distribuer les lettres, jugeant les boîtes trop éloignés de la voie publique. Depuis leur emménagement l'hiver dernier, les résidents n'ont donc rien reçu. Et Philippine Boulet, ils sont tout simplement exaspérés.
Dans le hall de la résidence où habite Golnaz, une centaine de boîtes aux lettres, toutes neuves, en bois clair. Seulement, elles sont vides.
En fait, il n'y a jamais, jamais de courrier. On ne sait même pas qui est notre facteur.
D'après La Poste, les boîtes sont trop éloignées de la route pour être livrées.
C'est la porte d'entrée.
Golnaz nous montre le chemin.
Maintenant, de ici à la route, hier, on a fait une mesure de 55 mètres.
Trop loin pour les facteurs qui se déplacent à 30 mètres maximum. Alors, ils déposent colis et lettres directement dans une agence postale. Au grand dam de Daniel.
Ma femme est handicapée, donc elle ne peut pas aller chercher son courrier. Donc c'est moi qui fais des voyages. Et il y a des gens qui ne peuvent pas, j'en connais. Donc il y a d'autres voisins qui vont pour eux.
Une situation qui exaspère Yann Reml, représentant régional du syndicat Sud PTT. Il déplore le manque de moyens des postiers.
Les facteurs et les factrices sont de moins en moins nombreux et nombreuses. Donc il y a plus de charges de travail pour chacun et chacune. Il y a plus de kilomètres à parcourir.
De son côté, La Poste affirme que les boîtes aux lettres doivent être installées au bord de la route et qu'aucune dérogation n'est possible.
Situation ubuesque ou en tout cas surprenante. Vous voulez réagir à cette histoire marseillaise? Vous nous appelez au 3216 et vous pouvez également réagir sur cette histoire d'une famille britannique rattrapée après des semaines de fraude sur l'autoroute.
Elle a été interpellée samedi dernier à Saint-Maurice-Colombier dans le Doubs sur l'A36. Cela faisait des semaines que les policiers étaient à leur recherche et leur technique était bien rodée. 3000 euros de péage impayés, finalement réglés le jour de leur arrestation, comme l'affirme le capitaine Denis.
Ils se présentent au péage, donc ils prennent un ticket la plupart du temps. Sauf que pour sortir, quand il faut régler la note, c'est un passager qui descend, il lève la barrière manuellement, et il laisse passer le véhicule ou les véhicules, et puis celui qui est descendu pour ouvrir la barrière, il remonte sa voiture tranquillement et il repart. Et c'est ce qu'ils appellent une grivellerie d'autoroute. Quand ils sont rentrés au péage à proximité de Besançon, ils ont été détectés par des lecteurs automatisés de plaques. La chance qu'on a eue, c'est qu'on avait une patrouille qui était sur le secteur très proche, ils ont été interceptés 10 minutes après. Les gens ont consenti à payer la somme des 3 véhicules qui représentait un litige de un peu plus de 3 000 euros.
Secouristes et bénévoles continuent à fouiller les décombres à la recherche de survivants après un violent séisme lundi en Colombie. Le bilan, lui, a été revu à la baisse ce matin, 216 morts. Et on aura tous les yeux rivés au ciel ce soir pour observer l'éclipse solaire entre 19h et 21h. Phénomène rarissime en France, 27 ans après la dernière en 1999.
RMC 7h36, on a vibré hier au championnat d'Europe de natation.
Première médaille d'or pour la France, décrochée par le relais 4x100 mètres nage mixte, emmené par Marie Vatel ou encore Maxime Grousset, qui a également remporté l'argent sur le 50 mètres papillon, Julien Richard.
Oui, Maxime Grousset déteste perdre. Pourtant, cette fois, il était heureux comme un gamin après sa deuxième place sur le 50 mètres papillon parce qu'il a failli rater le rendez-vous sur blessure, mais pas seulement.
C'est vrai que cette médaille d'argent, elle vaut un peu de l'or à Paris et c'est une petite revanche sur les Jeux. Donc, ça m'a procuré beaucoup d'émotions, c'est vrai.
Et comme un symbole, c'est dans une ambiance digne de Paris 2024 qu'il s'est lancé dans une folle remontée sur le spectaculaire relais mixte.
Je suis resté dans le mode jeu, ouais. J'étais en mode, il faut que je rattrape le plus de filles possible. C'était pas évident, mais c'était vraiment chouette.
Son entraîneur, Michel Chrétien.
Je pense que la revanche, elle est émotionnelle. À Paris, il était imperméable à l'ambiance qui était celle-là au moment des Jeux. Je lui ai demandé de s'imprégner justement de cette folie et que ça allait lui donner cette force intérieure plutôt que de se couper du monde.
Et la Marseillaise a cappella avec ses coéquipiers du relais, a fait revenir le naturel au galop.
C'est vrai que maintenant que j'y repense, j'ai un peu les boules de pas avoir fait premier. Et un peu de recul, j'aurais préféré chanter deuxième Marseillaise.
Et il pourra peut-être la chanter sur le 100 mètres papillon qui débute ce matin. Il est double champion du monde de l'épreuve.
Les championnats d'Europe de natation, c'est bien sûr à suivre sur RMC Antenne spéciale de 18h à 20h en direct du centre aquatique olympique de Saint-Denis. L'OL toujours en course pour jouer la Ligue des Champions cette saison. Ils se sont qualifiés hier pour les barrages après leur victoire 3-0 face au Sparta Prague. Prochaine étape mardi prochain, Fenerbahçe pour décrocher leur ticket pour la C1.
Donc Clément, le quintet se déroule sur l'hippodrome d'Anguin. Ce sera à 18h30.
Et le pronostic de Frédéric Kita, son favori le 14, Love You Fits, c'est son outsider, et le 12, Lucky Mélois.
Merci beaucoup Clément, le prochain journal ce sera à 8h, RMC 7h38. C'est le spectacle de l'été et il faudra lever les yeux vers l'ouest ce soir à partir de 19h18. La lune va grignoter le soleil, une première en France depuis le 11 août 1999. Mais attention aux yeux, les lunettes sont en rupture de stock. Olivier Lasvernias, président de l'Association française d'astronomie, est notre invité dans un instant sur RMC et sur RMC Story. A tout de suite.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 7h41 dans 11h40. C'est le rendez-vous de l'été et il n'aura pas lieu deux fois. Ce soir, la France va vivre sa première grande éclipse solaire depuis 27 ans. La Lune occultera le Soleil. Le phénomène débutera vers 19h18 à Dunkerque, jusqu'à 21h18 à Perpignan. Et de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, l'éclipse sera totale. Bonjour Olivier Lasvernias.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes le président de l'Association française d'astronomie. Vous l'étiez déjà d'ailleurs en 1999, Olivier. Vous êtes où exactement ce matin et pourquoi être à cet endroit précis?
Alors ce matin, je suis en train d'assister à un superbe lever de soleil et je viens de faire des photos d'ailleurs pour comparer avec ce qui se passera ce soir. Je suis à Burgos, donc très proche de la ligne de centralité de l'éclipse. Et on
en
va
Espagne.
Se déplacer tout à l'heure. En Burgos, en Espagne, absolument, sur la route de Compostelle. Et on va se déplacer tout à l'heure dans un petit bourg tout à fait charmant qui s'appelle Castro-Jerez, qui sera sur la ligne de centralité. Et là, on sera à l'endroit où on peut observer le mieux l'éclipse, sur la partie espagnole, et une éclipse qui aura lieu donc juste au coucher du soleil.
La ligne de centralité, comme son nom l'indique, c'est vous êtes à pile poil à l'endroit où l'éclipse sera la plus totale.
Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éclipse est produite par la Lune qui passe entre la Terre et le Soleil, et ça produit une ombre qui fait plusieurs centaines de kilomètres de diamètre et qui balaye la Terre. Ça va commencer donc dans l'après-midi, l'ombre de la Lune va commencer à arriver sur la Sibérie, au-dessus du Kamchatka. Elle va faire une boucle, traverser le nord en allant jusqu'au Groenland, passer en Islande où il y a aussi des fans observateurs qui vont la regarder. Ensuite, elle redescend dans l'océan, toujours l'ombre de la Lune, et elle rentre par le Pays Basque et elle se termine, elle disparaît au coucher du soleil au Baléares. Et donc, elle traverse l'Espagne en biais, si vous voulez.
Et vous n'êtes pas seul,
on est exactement
au
centre.
Hein, Olivier ?
Alors, il y a l'Association française d'astronomie, comme plusieurs autres organisations, ont préparé des voyages pour les passionnés, mais passionnés touristes du ciel. Et donc là, nous sommes avec deux groupes de 80 personnes. Puis nous rejoignons des amis espagnols pour ce terrain spécialement aménagé pour l'éclipse pour ce soir.
Olivier, restez avec nous. Hein. Sophie nous rejoint au 32-16. Bonjour Sophie.
Bonjour l'équipe.
On est à Clermont dans l'Oise.
C'est ça, tout à fait.
Sophie, j'imagine que vous adoreriez être aux côtés d'Olivier Lasvergnas là aujourd'hui.
Ah carrément. Ouais, c'est une grande chance, mais bon, c'est des professionnels déjà. Moi, je l'ai vu il y a longtemps et c'est déjà une chance. On est dans le Nord, on a la chance, enfin dans l'Oise, on a la chance déjà de mieux voir qu'à certains endroits. Donc, c'est
ça
déjà
vous passionne,
bien.
Sophie ?
Ah ouais, la nature me passionne. C'est juste des beautés. Enfin, je sais pas, ça fait du bien en plus avec les chaleurs, avec tout ce qui se passe dans le monde. Ah ouais, c'est magique. Moi, je trouve ça magique.
Ça vous renvoie à quoi ? Ça vous renvoie à la réalité de ce que nous sommes, c'est-à-dire pas grand-chose dans l'univers, c'est ça ?
C'est ça. Et puis la création, la beauté, quoi. La façon dont tout ça fonctionne, c'est tellement incroyable, c'est tellement pointu, je sais pas, il y a quelque chose qui électrise de regarder la lune, de regarder les étoiles. Bon, après moi je m'extase un peu sur tout, hein, les passions,
c'est bien.
Très
bien justement.
Et c'est mon côté bonne humeur tout le temps parce que justement faut relativiser et puis la nature est tellement belle, il y a tellement de belles choses.
Vous allez regarder avec qui ce soir, toute seule ou avec des amis, la famille ?
Non, oui, avec alors en fait ma fille qui travaille en centre aéré à Breteuil à côté de pas très loin de chez nous, ils organisent en fait une soirée dans un endroit bien dégagé.
Avec les enfants, c'est formidable.
Voilà, avec les enfants, avec les parents. Donc je les rejoins. Comme ma fille est directrice, je l'ai rejoint parce que nous, à Clermont, je ne suis pas sûre qu'on voie grand-chose et puis je crois que rien n'a été organisé. Et là-bas, c'est plus dégagé, donc je l'ai rejoint et ouais, ça va être super sympa.
Merci Sophie d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RMC, RMC Story. Belle journée du côté de Clermont et belle éclipse. Olivier Lasvergnas, vous entendez l'enthousiasme de Sophie. J'imagine que vous, ça vous parle aussi. Ça fait plaisir d'entendre ce type de témoignage.
Ah oui, absolument. Et alors, juste une chose pour rassurer ceux qui seront restés en métropole, hein, c'est que le spectacle va être fantastique aussi. En fait, c'est une éclipse qui est extraordinaire, d'abord parce qu'elle est quasi totale en France, mais en plus, elle se passe au coucher du soleil. C'est-à-dire que ça va être un spectacle, c'est vraiment un spectacle esthétique. Même si on la voit pas totale, le soleil va nous faire un clin d'œil avant de se coucher, c'est-à-dire qu'il va rester quasiment qu'une espèce de bague un peu décentrée vraiment d'un or très très brillant, puis ensuite le soleil va réapparaître progressivement et disparaître ensuite, et ça va être génial.
Si je suis en pleine ville, ce sera quand même fantastique à voir.
Le truc très important, c'est qu'il faut comprendre que c'est plein ouest, enfin ouest-nord-ouest, comme on dit chez nous, et vraiment au coucher du soleil. Donc il faut voir l'horizon ouest dégagé. Donc il faut aller sur un versant En Picardie, hein, il faut aller sur un versant, trouver un versant où on voit l'ouest. Et en ville, on sera coincé par les maisons. Hein, donc ouais. Il faut vraiment soit monter sur une terrasse si on est en famille, etc. Il faut trouver un point haut où on voit l'horizon ouest. Mmh. Et ça, c'est pour ça que moi je regardais d'ailleurs. La Burgos, où je suis encore au centre-ville, ben je me suis mis dans un coin où on voit l'horizon pour le lever du soleil. Et nous, on va aller sur un endroit qui est dégagé pour l'horizon ouest, quoi. Donc ça, c'est le truc très important.
Olivier.
Deux points. Avoir absolument des lunettes et oui. Avoir un horizon ouest complètement dégagé.
Olivier, est-ce qu'il y a encore un intérêt scientifique à cette éclipse?
Il y a deux intérêts. Il y a un intérêt esthétique et un intérêt pédagogique. Et c'est très bien d'y aller avec les enfants, parce que ce qu'il y a comme intérêt scientifique, c'est de voir avec quelle précision, aujourd'hui, on est capable de calculer ce qu'on appelle les circonstances de l'éclipse. Aujourd'hui, les astronomes, les astrophysiciens solaires, ils ont des tas d'instruments qui permettent de faire des éclipses artificielles. C'est un Français qui a inventé ça. D'accord. Déjà il y a près de 100 ans. Et puis maintenant, on a des satellites d'observation autour du Soleil.
Donc vous n'attendez donc pas cette éclipse pour pouvoir faire vos recherches?
Non. En revanche, effectivement, ça démontre à chaque fois avec quelle précision on est capable. C'est ce qu'on appelle les éléments de Bessel. Ça date de 1820. Avec quelle précision on connaît l'orbite de la Lune et les mouvements Terre-Lune, et la précision aussi sur la Terre, parce que la Terre tourne en même temps que la Lune tourne autour d'elle. Mmh. Et donc, c'est une démonstration de calcul, et ça, c'est vraiment intéressant d'en parler. Quoi.
Merci beaucoup, Olivier Lasvergnas, d'avoir été avec nous ce matin, président de l'Association française d'astronomie. Merci d'avoir été avec nous en direct de Burgos, en Espagne. Et belle éclipse ce soir, Olivier. Des messages, vous êtes nombreux à réagir sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424, Victor Pourchet.
Et beaucoup qui sont très impatients de voir cette éclipse, impatients au point que certains, figurez-vous, prennent un peu d'avance pour cette éclipse. On a David qui nous a envoyé cette petite vidéo, je la décris pour nos auditeurs. Il nous dit l'éclipse du mercredi matin. Bon voilà, il s'est fait sa propre éclipse avec un panneau stop au lever du soleil. C'est vrai que ça marche aussi, c'est un peu moins impressionnant. Toujours avec les lunettes, hein. Quand on regarde le soleil, David, c'est pas parce que c'est un panneau stop qui masque le soleil qu'il faut oublier les lunettes. Voilà, message très sympa de David. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos, vous aussi, sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Merci à David RMC, 7h50. Dans un instant, le portrait du jour avec Victor, justement. On parle de qui?
L'arbitre de foot indésirable aux États-Unis cet été, accueilli ce soir comme star du sifflet en Super Coupe d'Europe.
Star du sifflet, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 7h52, le portrait du jour avec Victor Pourchet ce matin. Victor, vous nous présentez Omar Artan, l'arbitre somalien qui officiera lors de la Super Coupe d'Europe ce soir entre le PSG et Aston Villa.
Le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League, compétition chapeautée par l'UEFA. L'organisation qui fait là un pied de nez à la FIFA et son patron Gianni Infantino, lui qui s'était couché face aux décisions de Donald Trump. Souvenez-vous, c'est lui, Omar Artan, qui en sa qualité de meilleur arbitre africain 2025 devait officier lors de la Coupe du Monde, mais qui avait été refoulé du territoire américain. Alors pourquoi? Eh bien officieux parce que Donald Trump est la Somalie, pays sur la liste noire américaine. Il est aussi les Somaliens. Dans ces diatribes, ce sont, je cite, des déchets qui n'ont rien et qui ne font que s'entretuer. Sur Omar Artan, un responsable américain avait fait fuiter un soupçon jamais étayé. Il aurait des proches possiblement liés à une organisation terroriste, pas l'ombre d'une preuve. Sinon, officiellement, les services américains ont eu, je cite encore, des problèmes avec la vérification de ses antécédents.
On peut peut-être un peu les aider pour vérifier, retracer ses antécédents?
Avec plaisir. Omar Artan, c'est l'archétype du pionnier. Il faut toujours un début de voyage chaotique, vous savez, quand on ouvre la voie. Son père meurt jeune, il grandit loin de sa mère. L'enfant de Mogadiscio se passionne pour le foot, tente de jouer, mais se blesse assez pour préférer être arbitre. Les petits tournois de quartier, les matchs entre écoles, sur des terrains où la pelouse ne pousse jamais, où l'on s'accommode du sable et du gravier. Omar Artan est bon, il grimpe vite, tranquille, et concentré si l'on en croit l'un de ses proches. Fédération somalienne, arbitre international, premier Somalien à exercer à la Coupe d'Afrique des Nations en 2024.
Et puis ce coup d'arrêt donc cet été.
Et ou pas d'ailleurs, il est devenu une star absolue depuis en Somalie, porté en triomphe par des milliers de personnes à son retour, source d'inspiration pour les générations futures, c'est ce que dit le président somalien, et donc désormais invité par d'autres pays pour arbitrer la finale de leur championnat, et ce soir, super arbitre pour sacrer un super champion d'Europe.
Et la super coupe d'Europe PSG Aston Villa, ce sera à vivre donc en direct sur RMC. Coup d'envoi ce soir à 21h. RMC 7h54, tout l'été. Des reportages près de chez vous, 5 mois après les élections municipales.
RMC, dans vos villes.
Et ce matin, on part à la rencontre de Julien Dassé. C'est le maire de Vendée-Montalivet, dans le Médoc, en Gironde. C'est une commune de près de 3000 habitants, connue pour son, notamment, son naturisme. 10% de la population pratique ce mode de vie, là. Le village accueille sur son territoire le centre Héliomarin, le plus grand camping naturiste d'Europe, où vous êtes rendu, Pierre Bourgès.
Et je retrouve justement Julien Dassé dans l'immense camping naturiste, le centre Héliomarin, qu'on appelle ici le CHM. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
On a pris une voiturette pour parcourir cet immense camping collé à la plage au milieu des pins. Et depuis ce matin, on croise quelques résidents qui se réveillent tranquillement. Il fait encore frais. La plupart de ceux que nous avons vus ont mis une veste, mais ils n'ont mis qu'une veste.
Et oui, c'est la particularité. C'est de naturisme à ciel ouvert. Donc oui, ça peut interpeller les personnes. Mais ici, c'est plus qu'un mode de vie, c'est vraiment une identité.
Pendant qu'on parle, on traverse les 220 hectares de bungalows et de tentes. On passe devant un cinéma, un centre commercial et même un stade de foot tout neuf juste en face de nous. Aujourd'hui, c'est presque une ville dans la ville qui s'est construite main dans la main avec la mairie.
Oui, exactement, parce que la particularité aussi du CHM, c'est que j'ai des résidents. Donc, il y a 350 électeurs à peu près au CHM. Donc, je considère non pas le CHM comme un camping, mais comme un quartier à part entière. Donc, je viens voir mes administrés.
D'autant que 350 électeurs naturistes, c'est quand même plus de 10% des votants à Montalivet. Et alors, on s'arrête devant la plus vieille bâtisse du camping en été. Autour de ce bungalow blanc et rouge, le nombre de résidents grimpe à 16 000 qu'il faut tous protéger de potentiels voyeurs. Le camping est donc sécurisé par des clôtures, par des portiques. Le maire met lui aussi en place des forces de police municipale et de gendarmerie qui veilleront à la sécurité de tous. L'objectif, c'est bien de pratiquer le naturisme sereinement.
Nous sommes très vigilants que les personnes qui rentrent sont animées de cette volonté du naturisme, mais pas du libertinage. C'est pas le Cap d'Agde, et voilà. Donc ces dérives-là, c'est pas l'identité que l'on prône. Et voilà.
Jocelyne nous a rejoint, c'est une résidente historique du CHM. Un maire impliqué sur ce sujet, pour elle, c'est très important.
On s'aperçoit qu'il est aussi concerné, donc ça permet aussi d'avoir, de se sentir... bien dans ce Montalivet.
Être maire d'une commune en partie naturiste, c'est donc très sérieux, mais pas que.
En tant que maire non naturiste, des fois, c'est vrai que ça peut occasionner quelques scènes un peu cocasses. Et pendant la campagne municipale, j'ai eu la belle surprise d'être à la table et d'être le seul habillé. Hein.
Si je comprends bien, maintenant que vous êtes élu, on ne vous verra jamais qu'avec l'écharpe.
Voilà, on viendra toujours... habillé, mais non.
Il viendra au deuxième mandat, il commencera.
Bon, eh bien, rendez-vous au deuxième mandat.
Exactement, le rendez-vous est donné.
Merci Pierre Bourgès. Tiens, vous êtes adepte du naturisme, ou alors ça vous gêne, et ben vous nous appelez au 32-16. Dans un instant, le journal de 8h, la météo avec Charlène Villemer, et puis juste après, l'écho avec notre économiste Pierre Rondeau. Pierre, les prix du gaz flambent.
Oui, et comme le disait Coluche, hein, jusqu'où s'arrêteront-ils?
Eh ben, on va le voir, c'est dans un instant sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. RMC, Apolline Matin.
Tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clara Gabillet. Clara à la une, un réveil difficile après une nuit tropicale.
Oui, c'est le retour des nuits à plus de 20 degrés, cinquième vague de chaleur en France. Nous serons en direct de Marseille où la fatigue s'installe déjà. Un spectacle magique à observer avec des lunettes spéciales, bien sûr. C'est le jour J pour l'éclipse solaire et on vous rassure, vous pourrez en profiter même si elle ne sera pas totale en France. Et puis le PSG en quête d'un titre dès ce soir pour son premier match officiel de la saison. La Super Coupe d'Europe contre Aston Villa, coup d'envoi 21h.
Vous l'avez peut-être déjà constaté, cette nuit, la chaleur s'accentue un peu plus sur la France.
Mais quasiment tout le pays en vigilance orange canicule. Charlène nous le disait, 78 départements, à l'exception d'une petite partie du nord-est et de quelques départements du sud-ouest. Le pic de chaleur est attendu demain. C'est la cinquième vague depuis le début de l'été. Toujours aussi difficile à supporter, hein. Anna Jaujard, correspondante d'RMC dans le sud-est. Vous êtes en direct du Vieux-Port de Marseille ce matin où l'on se réveille après nuit tropicale.
Oui, le soleil s'est levé, on commence déjà à réchauffer l'atmosphère, mais même avant son arrivée, on sentait bien la chaleur ici sur le Vieux-Port, car le thermomètre n'est pas descendu en dessous des 26 degrés cette nuit. Alors, au petit matin, j'ai croisé Ourida et Anissa, elles viennent de Saint-Étienne et elles sont arrivées dans la nuit à Marseille. Elles se sont fait surprendre par cette chaleur nocturne.
Vu que c'est l'air marin, en règle générale, quand on est proche de la mer, il fait plus frais, en théorie, hein. Mais là, non, en théorie, non. Ouais, je trouve que la chaleur, elle est presque insupportable. C'est la sensation d'être moite un peu.
Au col.
Et un peu plus loin, j'ai aussi rencontré Serge, Marseillais depuis 2 ans, en train de promener son chien. Lui, il a toujours vécu dans le sud-est, donc la chaleur, l'été, il connaît. Mais quand même, il a l'impression que cette année est plus intense comparée aux autres.
On sort, bon, on a l'impression de fraîcheur au début, mais après, bon, on est tout de suite moite et on enchaîne canicule sur canicule, quoi. Alors qu'il y a quelques années en arrière, bon, c'était une période qui durait 1 semaine, 10 jours maximum. On vit différemment, voilà, on sort le chien de bonne heure, on reste au frais sous la clim, puis on ressort le soir pour la dernière balade, quoi.
Il l'avoue, hein, c'est difficile de récupérer convenablement quand les nuits ne descendent pas en dessous des 20 degrés. Mais cette semaine, il va bien falloir faire avec ici parce que la nuit prochaine, encore, il est prévu 27 degrés.
Anna Jaujard en direct de Marseille ce matin pour RMC. La chaleur qui a des conséquences à plus de 3000 mètres d'altitude. 2 refuges du Mont-Blanc fermés. C'est le maire de Saint-Gervais en Haute-Savoie qui l'annonce et appelle les alpinistes à renoncer à leur projet d'ascension à cause d'un risque de chute de pierre. Éric Mesnier est ancien secouriste de haute montagne.
C'est la première fois qu'on est confronté à des canicules successives. On perd une capacité de gel de l'intégralité de la roche avec ce qu'on appelle le permafrost. Le permafrost, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau qui, à plus de 2500 mètres, rentre à l'intérieur des cannelures, des rochers, gèle et fait un ciment naturel. C'est-à-dire qu'il fait 3, 4, 5 degrés au sommet du Mont Blanc plusieurs journées de suite et plusieurs canicules de suite. C'est très, très mauvais et ça augmente les chutes de pierre.
Et aujourd'hui, 45 départements sont en risque élevé feu de forêt. Un ouvrier agricole a été condamné hier à Niort à 2 ans de prison ferme plus 1 avec sursis pour avoir provoqué 11 départs de feu volontaires avec l'aide d'un chalumeau. Ça s'est passé dans les Deux-Sèvres et dans le Maine-et-Loire. L'homme de 45 ans au profil dépressif a reconnu les faits. Il dit avoir entendu des voix.
27 ans que la France n'en avait pas connu. C'est le grand jour, le jour de l'éclipse solaire.
Il va faire nuit. En plein jour, la Lune masquera le Soleil aux alentours de 19h20. Ça va durer environ 1h30. Elle ne sera pas totale en France, hein, et ça dépend de la ville où vous l'observez. Mais le spectacle s'annonce magique de partout en France, rassure sur RMC Olivier Lasvernias, le président de l'Association française d'astronomie.
Pour rassurer ceux qui seront restés en métropole, hein, c'est que le spectacle va être fantastique aussi. En fait, c'est une éclipse qui est extraordinaire, d'abord parce qu'elle est quasi totale en France, mais en plus, elle se passe au coucher du soleil. C'est-à-dire que ça va être un spectacle, c'est vraiment un spectacle esthétique. Même si on la voit pas totale, le soleil va nous faire un clin d'œil avant de se coucher, c'est-à-dire que il va rester quasiment qu'une espèce de bague un peu décentrée vraiment d'un or très très brillant, puis ensuite le soleil va réapparaître progressivement et disparaître ensuite, et ça va être génial.
Très poétique, hein, Olivier Lasvernias qui répondait à RMC depuis Burgos en Espagne, l'endroit parfait, hein, pour l'observer, cette éclipse où des curieux du monde entier sont déjà arrivés.
On en vient, Clara, à cette histoire rocambolesque. Donald Trump exfiltré secrètement de son avion.
C'est arrivé début juillet sur le tarmac de l'aéroport d'Ankara en Turquie, au moment où le président américain quittait le sommet de l'OTAN. Le Washington Post l'avait révélé et ce matin, Donald Trump le confirme. Inès Zegloul en direct avec nous. Tout s'est passé à l'époque devant les caméras du monde entier.
Oui, à la barbe et au nez de tout le monde sur le tarmac de l'aéroport, Donald Trump monte les marches, salue la presse et embarque à bord bord du Air Force One. Mais à quelques minutes du décollage, on le voit sur les images de vidéosurveillance, un camion frigorifique, un véhicule qui est utilisé habituellement pour charger les repas, s'approche de l'avion. Pas de limousine blindée, donc pas de vitres teintées, cette fois-ci choisie par Washington. Washington a choisi en fait un camion cantine. C'est bel et bien à bord de cette remorque que le président de la première puissance mondiale se faufile in extremis, exfiltré, tracté à travers l'aéroport jusqu'au Boeing de l'armée de l'air américaine. Objectif de la manœuvre, donc, protéger Donald Trump d'une potentielle attaque iranienne. Rien d'étonnant, dit-il.
Je fais juste ce que me disent les services secrets. Ils voulaient me mettre dans un autre avion, ils voulaient vraiment que je le fasse, donc je me suis exécuté. Vous savez, je suis l'objet de beaucoup de menaces.
Alors, réelle menace ou paranoïa, l'exfiltration a eu lieu seulement quelques heures après la reprise des frappes américaines contre l'Iran, frappe ordonnée par Donald Trump lui-même.
Le récit de cette affaire rocambolesque signé Inès Zegloul pour RMC. Un dossier explosif rouvert par le gouvernement, toujours en quête d'économie. Bercy travaillerait actuellement sur la désindexation des retraites les plus élevées, qu'elles ne soient plus liées à l'inflation, des pensions potentiellement gelées dès l'année prochaine. Et Vincent Chevalier à Lyon pour RMC, ça ne plaît pas du tout aux premiers concernés.
Le sujet fait un peu grincer des dents chez les retraités, notamment celle d'Alain, ancien chef d'entreprise de 82 ans.
Je crois quand même que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup cotisé à des tas de choses, donc ça me semble pas très normal.
Également agacée, Catherine, une ex-enseignante, estime que ce n'est pas forcément aux retraités d'éponger la dette.
Ma retraite, je pense que je l'ai méritée. Je vous dis, j'ai 50 ans de cotisation. Compte tenu des impôts que je paye, je pense participer à l'effort de guerre.
D'autres sont un peu plus ouverts à la proposition, mais sous conditions. Tout dépend le seuil appliqué, et selon Juan, il doit être assez haut.
Moi, je pense qu'à partir de 5000 euros, et pourquoi pas, à la vie comme elle est, comment vous faites, et bien vous travaillez. Pour quoi faire ? C'est pour vivre, pas pour crever. Excusez-moi l'expression vulgaire.
En juin dernier, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises évoquait les retraites au-delà de 3 000 euros. Barème raisonnable, d'après Françoise, qui ne serait alors pas concernée.
3 000 euros, on peut participer quand même. Hein. Mais c'est toujours pareil, hein, pour la bonne gestion, pour une meilleure sécurité, une meilleure scolarité.
Poursuivre l'indexation généralisée des retraites coûterait 6 milliards d'euros en 2027.
Alors, cette idée de geler les pensions de retraite les plus élevées, de les désindexer de l'inflation, bonne ou mauvaise idée? Vous nous appelez au 3216. Et puis Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, sera mon invité. Ce sera à 7h45.
Le bilan revu à la baisse ce matin en Colombie. 216 morts dans le puissant séisme qui a frappé le pays avant-hier. Une rescapée a été sauvée des décombres cette nuit.
Et ce sera à 8h45, Éric Coquerel, évidemment. Parce qu'il est déjà largement passé l'heure. C'est la rentrée pour le Paris Saint-Germain. Premier match officiel de la saison ce soir.
Et déjà première finale, la Super Coupe d'Europe. PSG Aston Villa, le vainqueur de la Ligue des Champions contre celui de la Ligue Europa. Ça se passe ce soir, 21h à Salzbourg, en Autriche, avant le trophée des champions dimanche contre Lens. Valentin Jamin, l'objectif pour Paris, c'est 2 titres, malgré une préparation un peu compliquée.
Oui, un groupe pour la première fois au complet et souriant hier à la veille de cette première finale qu'aborde encore avec appétit le capitaine Marquinhos.
Même si on n'a pas eu beaucoup d'entraînement, on a faim. Les objectifs et les titres, tu dois les prendre. Même si on n'a pas eu beaucoup de préparation, il y en a même pendant les vacances tout seul, ils sont préparés pour arriver ici et être prêts.
Ces deux dernières saisons, le PSG a remporté 9 titres et les joueurs pourraient se lasser, d'autant que la plupart étaient aussi à la Coupe du Monde cet été. Mais l'effectif a une mentalité différente, pense le milieu portugais.
L'année dernière, on avait aussi de faim pour plus de titres. Et je pense que cette année, c'est pas différent. Bien sûr qu'on sait que c'est difficile. Comme le coach l'a dit, un petit reset, oublier de les choses qu'on a déjà gagnées et concentrer sur le futur.
Il sera beaucoup question de gestion ce soir et dimanche contre Lens, alors que 8 joueurs ont repris l'entraînement avant-hier et l'entraîneur Luis Enrique l'a bien en tête.
C'est très compliqué à gérer, savoir exactement quelles sont la charge de minutes que chaque joueur peut jouer. Mais on chercherait à être au maximum niveau.
Pour espérer rafler les 2 titres en 5 jours avant de penser à gagner une 3e Ligue des Champions consécutive.
Un coup d'envoi 21h pour cette Super Coupe d'Europe. RMC en direct de Salzbourg en Autriche pour vous faire vivre cette affiche entre le PSG et Aston Villa. Du côté de Monaco, ça sent la fin pour Paul Pogba. L'ancien international français s'est à nouveau blessé hier à l'entraînement après une saison déjà très compliquée. La direction du club l'aurait informé de sa volonté de mettre un terme à son contrat qui devait courir jusqu'à l'été prochain.
Merci beaucoup. Coucou Clara, le prochain journal ce sera à 8h30. Christian est avec nous au 32-16. Bonjour oui. Christian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RMC, RMC Story. On est dans les Côtes d'Armor.
C'est ça.
Dans quel coin des Côtes d'Armor, Christian?
Je suis c'est à côté de Bron, en dessous de Dinan.
D'accord, en dessous de Dinan. Et vous levez tôt parce que vous êtes porteur de presse, c'est ça?
Je me lève à 1h15 tous les matins, oui.
La tournée est déjà faite?
Ça y est, ouais, je viens de finir de déjeuner, là.
Je peux me permettre de vous demander votre âge?
Sans problème, j'ai 74 ans.
Et vous continuez à bosser, là, toutes les nuits?
Oui, je suis à la retraite. Une grosse erreur que j'ai commise à l'époque, en 2012, parce que j'avais 60 ans à ce moment-là.
Oui.
Et à l'époque,
vous faisiez quoi à l'époque?
Je travaillais dans une banque, dans un groupe bancaire.
Ok.
Le petit bonhomme vert, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, je vois, ouais.
Je suis resté 43 ans.
43 ans? Et vous avez pris votre retraite à 60 ans, pourquoi erreur?
Erreur parce que j'aurais mieux fait de continuer, tout simplement. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 74 ans et je suis toutes les nuits sur les routes.
Voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre, Christian, mais aujourd'hui, votre pension de retraite, elle s'élève à combien?
Ma pension de retraite, impôts déduits et tout, je crois que c'est aux alentours de 2600 euros.
1600 euros?
2600 euros.
2600 euros?
Ouais.
Alors pourquoi vous avez... Net. Si je peux me permettre, mais pourquoi vous êtes obligé de travailler en plus?
Ça, c'est tout simplement parce que j'aurai le temps de me reposer après, une fois qu'on passe de l'autre côté, et que j'ai pas envie de m'arrêter.
Donc ça, c'est une volonté de votre part, c'est pas une nécessité financière.
C'est un choix personnel, c'est un choix. L'activité que j'ai, l'activité, c'est que je porte les journaux Ouest France, toutes les nuits, mais c'est une activité personnelle, quoi. C'est un choix.
Cette idée du gouvernement de désindexer les retraites les plus élevées de l'inflation pour faire des économies, qu'est-ce que vous en pensez? Potentiellement, vous pourriez être touché.
Oui, parce que a priori, d'après Hollande, à partir de 4000 euros, on est riche.
Ouais.
C'est 2600 euros. Je les ai pas volés. Et à l'époque, quand je bossais en 71, on travaillait 40 heures par semaine. Donc on n'était pas aux 35 heures. Donc vous voyez, il y a pas. Je veux dire qu'on a cotisé toute notre vie. Moi, je cotise et aujourd'hui, je cotise. Même sur le petit salaire, entre guillemets, que j'ai en tant que porteur de journaux, on arrive encore à me prendre de l'argent alors que je suis retraité et on fait cotiser une retraite voilà.
Malgré tout, Christian, moi je regardais encore les chiffres ce matin du COR, du Conseil d'orientation des retraites. Les retraités sont, Pierre Rondeau qui est à mes côtés, notre économiste, va confirmer, ont des revenus globalement supérieurs au reste de la population parce que généralement, ils sont propriétaires de leur logement.
Et ils n'ont plus de crédit à payer.
C'est votre cas, Christian?
Non, pas du tout, non.
Pas du tout,
non,
bon,
parce
d'accord.
Que j'ai bourlingué, donc j'ai vendu, j'en suis à ma sixième maison.
D'accord.
Et par contre,
mais est-ce que vous comprenez que face au déficit, tout le monde doit faire des efforts? Et y compris ceux qui gagnent en moyenne un peu plus.
Je suis d'accord, mais dans ce cas-là, tout le monde doit payer de l'impôt à partir du moment où il touche de l'argent.
D'accord, à sa juste mesure, c'est l'impôt universel, même pour ceux qui gagnent peu, mais à leur mesure.
On paye en fonction de ses revenus, point
compris.
Final.
Compris, Christian.
C'est pas obligatoirement 48% de la population qui doit payer pour les 100% au niveau des impôts.
Merci, Christian, d'avoir été avec nous. Belle journée et bon repos du côté des Côtes d'Armor. Dans un instant, sur RMC, 11 millions d'entreprises concernées, 2 millions seulement inscrites, censées faciliter la lutte contre la fraude à la TVA. La facturation électronique devient obligatoire le 1er septembre. Mais pour François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs, c'est un vrai casse-tête. C'est son parti pris dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC tout juste 8h18. Dans moins de 3 semaines, le 1er septembre, 11 millions d'entreprises françaises vont devoir passer à la facture électronique via l'une des 146 plateformes agréées par l'État. C'est censé permettre de mieux lutter contre la fraude à la TVA. Mais seuls 2 millions de ces entreprises étaient inscrites à l'annuaire à la mi-juillet. Et ces plateformes annoncées gratuites sont devenues payantes. Bonjour François Hurel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Vous dites que c'est un véritable casse-tête, voire un cauchemar actuellement pour les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs en général.
Un vrai cauchemar.
C'est votre parti pris ce matin sur RMC.
C'est en fait une réforme. Elle est louable au fond. On peut pas être contre à la fois la transparence et la sécurité. Ça, c'est pas possible. En revanche, En revanche, c'est une réforme qui est mal préparée, qui est mal comprise. Il n'y a pas de pédagogie. On le dit depuis des mois, on dit, mais attendez, préparez-la. Il faut l'expliquer, il faut faire comprendre pourquoi. Or, à cet instant, c'est perçu par les entrepreneurs comme du temps perdu, des coûts nouveaux, une complexité supplémentaire. Ils ont vraiment pas autre chose à faire il faudrait laisser travailler les gens. Ils ont besoin, le coup, effectivement, de facturer, de gagner de l'argent. Mmh. Ils n'ont pas besoin de remplir des formulaires.
Comment expliquez-vous la mise en place de ce que vous décrivez comme une usine à gaz ? Pourquoi ça a été aussi mal préparé, selon vous ?
Ça a été mal préparé parce que depuis... c'est une réforme qui est engagée depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'il faut qu'on y passe. Et c'est assez logique. Mais jusqu'à 2024... L'État expliquait qu'il allait lui-même fabriquer une plateforme qui serait sans frais et toutes les entreprises pourraient se brancher dessus. Et puis en 2024, on s'est aperçu que l'État ne savait pas faire, il ne pouvait plus faire. Et au lieu de dire on renonce à la réforme, on reporte, on essaie de faire quelque chose d'autre, il a confié à des opérateurs privés un véritable péage pour que effectivement les entreprises se soumettent.
C'est ça,
à ces frais supplémentaires.
Il a sous-traité au privé, ce qui veut dire qu'aujourd'hui les auto-entrepreneurs doivent s'abonner obligatoirement à une plateforme pour leur facturation électronique. Absolument. Et c'est payant, ça leur coûte combien ?
Alors ça coûte, si pour celui qui fait pas beaucoup de factures, même très peu, ça va lui coûter entre 20 et 30 euros par mois. Mais c'est beaucoup d'argent.
C'est déjà beaucoup d'argent.
Et surtout, c'est de la complexité qui est tellement inutile. Parce que lui, en plus, il n'est pas assujetti à la TVA. Donc, alors, on va lui faire comprendre que pour lutter contre la fraude à la TVA, il n'est pas assujetti, il faut qu'il s'abonne à une plateforme. Il comprend rien. Et c'est assez normal. En réalité, nous avons, dans ce pays, créer une espèce d'économie de la complexité qui gagne sa vie avec la complexité. Et du coup, on n'en sort plus.
Le ministre David Amiel promet une période de tolérance et de bienveillance. Est-ce que ça vous rassure ?
Pas du tout. Je pense qu'il y a déjà, pour nous, il y a trois choses à faire. Première chose, il faut créer une véritable option publique sans frais. Deuxièmement, il faut garantir la confidentialité des données, parce que finalement, on va donner ses fournisseurs, ses clients et ses prix, et on va envoyer ça dans des plateformes dont on sait pertinemment qu'elles sont hackées tous les quatre matins. Mmh. Bon, à part ça, c'est pas très grave. Ensuite, il faut qu'il y ait une pédagogie, de la réforme. Et dernier point, si jamais on n'est pas assujetti à la TVA, je vois pas pourquoi est-ce qu'elle s'applique.
François Hurel, ce matin, vous demandez quoi au gouvernement ? Un moratoire, on arrête tout et on remet tout à plat ?
On remet tout à plat et un moratoire. Et on dit clairement, on part sur une autre direction, on fait quelque chose qui coûte rien, et surtout on donne le temps aux gens et on explique la réforme. On l'explique. Regardez combien de temps on a expliqué le prélèvement à la source. Oui. Ça a duré 2 ans. Mmh. Ça s'est très bien passé. Cette réforme-là, on l'a pas du tout expliqué. Ça me rappelle exactement le guichet unique. Le guichet unique, on nous avait promis, les entreprises auront un guichet unique, elles pourront faire leurs formalités, ça coûtera rien, etc. Mmh. C'est tellement compliqué qu'elles sont obligées de recourir à des collaborations extérieures pour faire leurs formalités.
C'est entendu. Merci beaucoup François Hurel d'avoir été avec nous, le président de l'Union des auto-entrepreneurs. RMC, 8h22. Pierre Rondeau, notre économiste, est avec nous. Le prix du gaz va encore augmenter de 5,6% en septembre.
Oui, Rémi, encore et encore 5,6% parce que ce n'est pas une première et qu'on a l'impression que le gaz qui augmente, c'est quelque chose qu'on a vu très souvent en 2026. C'est simple, depuis janvier, le prix du gaz a augmenté de 19,5%, quasiment 20% de hausse en 8 mois et donc de nouveau une augmentation de 5,6% dès septembre. 5,6% en plus sur 6 millions de foyers, tous ceux qui ont souscrit au tarif de marché. Et pour l'instant, ceux ayant un abonnement à prix fixe, 4 millions de foyers ne sont pas concernés, mais la question c'est jusqu'à quand.
Alors sans mauvais jeu de mots, comment expliquer cette explosion des prix du gaz?
Alors le prix du gaz vendu directement aux consommateurs dépend de trois choses. Le prix du gaz sur les marchés internationaux, le coût de son acheminement jusqu'au foyer et les taxes. Ici, la hausse de 5,6% est justifiée par l'explosion du prix du gaz sur les marchés internationaux, notamment depuis le début du conflit en Iran et la crise du détroit d'Hormuz. Rajoutez à cela une augmentation de la demande de gaz sur les marchés asiatiques, notamment en Inde et en Chine, ça s'emballe. Pour vous donner un exemple, sur la bourse de référence du gaz naturel en Europe, le cours du gaz a augmenté de 86% en 6 mois.
Et est-ce que ça va se poursuivre?
Alors Rémi, je ne veux pas vous inquiéter.
Un peu quand même.
Mais voilà, d'après une étude du Bureau européen des unions de consommateurs, les factures de gaz devraient augmenter d'ici 2030 de 53%. Oui, 53%. Alors pourquoi? Déjà parce que les tensions géopolitiques risquent de se poursuivre et perturber les marchés internationaux, puis aussi à cause de l'obligation d'entretenir et de renouveler les réseaux de transport de gaz. Ça coûte de plus en plus cher et c'est directement répercuté sur les factures, notamment prises en charge, par les consommateurs. L'association Que Choisir Ensemble parle même d'une bombe à retardement dans les années à venir.
Autre question de prix, et là encore c'est très sensible, les prix des carburants.
Alors pour vous rassurer, ça baisse très légèrement.
Ouais.
Le litre de samplon 95 à 1,968 €, il était à 1,97 € hier. Le gazole, 2,165 €. Le baril, lui, augmente à 89,71 $, il était à 87 $ hier. Et le gaz, je vous annonce une augmentation, et une très très légère baisse sur les marchés, à 60,03 €.
Face à ces très bonnes nouvelles qui nous sont données tous les matins par Pierre Rondeau, on va se détendre un peu. Il a pris quelques jours de vacances, mais nous a laissé son meilleur, c'est Arnaud Demange.
Institut de médecine spatiale recherche des volontaires pour rester allongé 10 jours contre 5 000 €.
Nous,
ah oui, on est là.
Nous, on est là. Prenez-nous, nous 5, hein, nous 5. Au lit pendant 10 jours, mais comment donc? Alors, il n'y a pas 3000 postes, hein, ça se saurait si on avait 3000 lits disponibles dans les hôpitaux. Donc, ils recherchent que 10 personnes,
ouais,
entre 20 et 40 ans, sportifs et en bonne santé. Donc, c'est raté, hein. C'est pour faire des tests sur l'apesanteur. 5 000 € pour 10 jours à rien faire, c'est mieux payé que sénateur. Heureusement que c'est interdit aux plus de 75 ans, sinon tous les sénateurs auraient postulé. D'ailleurs, en parlant de ça, la spationaute française,
oui,
on en parlait tout à l'heure avec Arthur Chevalier, et Sophie Adenau va décoller pour passer 9 mois dans la Station Spatiale Européenne. Bravo à elle. Vous avez vu, Apolline, elle a un CV de dingue, elle est incroyable. Ingénieure aéronautique, diplômée au MIT à Cambridge, pilote d'hélicoptère, pilote d'essai. Elle parle allemand, russe, anglais, espagnol. Elle fait du VTT, du ski, de la plongée, elle est même prof de yoga. Quelle connasse, alors celui-là aussi. On n'avait pas assez avec Thomas Pesquet pour nous faire nous sentir comme des merdes. Il fallait la version féminine. Comme si les femmes n'étaient pas assez complexées comme ça. C'est même à ça que servent les magazines féminins. Il y a toute une littérature pour nous faire sentir mal. Nous, les hommes, tous les jours, on cherche le nom de Thomas Pesquet dans les dossiers Epstein. Hein, pour le savoir. Hein. Et rien, salopard. Alors, Sophie Adenau va passer 9 mois dans la station spatiale. Elle pourra même emporter un smartphone dans l'espace. C'est une première, même s'il servira pas grand chose, je pense, hein. C'est comme l'emporter en Lozère, si vous voulez. Ça capte pas, y a pas de réseau là-haut. Courage à elle.
C'est tout juste 8h27. Dans un instant, la météo avec Charlène Villemer, le journal, et puis geler les retraites pour économiser 3,6 milliards d'euros. C'est l'une des pistes lancées par Bercy pour le budget 2027. Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, est notre invité à 8h45. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et tout ce qu'il faut savoir sur l'actu, c'est avec Clément Gouitz, le grand rendez-vous astronomique de l'année. Clément, c'est ce soir.
Après 27 ans d'attente, l'éclipse solaire sera visible à partir de 19h et le sud-ouest sera aux premières loges. Près de 100% du soleil sera occulté. Face à la canicule, les Français à la recherche de la fraîcheur et cela plombe la fréquentation des parcs d'attractions et des parcs à thème. Et l'accès au métier de chauffeur VTC se durcit. L'examen devient obligatoire pour exercer.
Il ne faut pas le rater, il vaut mieux pas. En tout cas, c'est aujourd'hui le jour J pour l'éclipse solaire.
La Lune va grignoter le soleil dans le ciel entre 19h et 21h. Et c'est à Biarritz, avec 99,5% du soleil occulté, que le phénomène sera le plus impressionnant. Et les plus passionnés de ce phénomène sont déjà prêts, comme a pu le constater notre envoyé spécial RMC, Alexandre Thibault.
Rater l'éclipse de ce soir, impensable pour Aurélien, passionné d'astronomie.
Tout avait vraiment été anticipé.
Venu depuis Angers, en famille avec sa femme et ses enfants.
C'est planifié depuis au moins une bonne année déjà. Le 12 août était vraiment, fallait vraiment que ça tombe dans la semaine de congé, quoi. Les lunettes ont été achetées il y a déjà quelques mois. C'est un aller-retour pour ça.
Plus loin sur le front de mer, Aurélie et ses deux filles ne font pas l'aller-retour. Elles viennent de la Nièvre, ont passé leurs vacances dans le Var et font étape à Biarritz.
J'ai hâte de voir l'éclipse. C'est le soleil qui rencontre la lune.
8 heures de route les attendent ensuite pour rentrer chez eux, un détour assumé.
Mon mari me dit, oh regarde, il y a une éclipse, etc. Je dis, bah oui, j'ai vu. Il me dit, ouais, mais apparemment, on la voit mieux à Biarritz. Je dis, bah vas-y, on y va.
Leurs filles n'ont pas connu celle de 99.
On a gardé avec mon mari un bon souvenir, donc on voulait faire vivre un peu aux enfants ce petit moment un peu spécial, quoi.
Certains viennent même de plus loin, casquette et lunettes bleues sur la tête. Carmen a tout prévu. Et quand on parle budget.
2005, c'est sûr.
Ça fait cher pour voir l'éclipse.
Non. Non, parce que c'est l'unique fois que je vais le voir. Ça, c'est une fois là dans la vie.
Reste une seule inquiétude qu'ils partagent tous. Pour que le trajet et le séjour en vaillent la peine, les conditions météo doivent être excellentes.
Et pour voir le soleil disparaître complètement, il faut franchir les Pyrénées et se rendre en Espagne.
La canicule fait fuir les touristes.
Les Français évitent cet été les sorties en plein air et privilégient les endroits frais. Une situation qui pèse sur les parcs d'attractions, parcs à thème et Inès Zegloul. Les professionnels commencent sérieusement à en ressentir les effets.
Un coup d'œil vers les arbres, un autre sur la météo. Gilles vient de recevoir un énième coup de fil.
Il y a un groupe qui avait réservé à 15h jeudi et ils se sont dit « c'est trop chaud pour nous ».
Ce responsable de parc d'Acrobranche dans le Lot a beau vanter la fraîcheur de ses grands chênes, promettre des batailles d'eau pour les plus petits, rien n'y fait.
On a une grosse baisse de la fréquentation, on est à moins 40%. De toute façon, l'année est déficitaire à la fin.
Même constat, amer dans ces champs de l'avant-garde où Aguel brosse le portrait, 38 degrés, soleil brûlant et très peu de touristes qui posent devant ces parcelles violettes.
5, 6, 7 personnes, alors que d'habitude on est à 25 personnes. On est même en réflexion à planter des arbres au milieu des parcelles, à réfléchir sur les horaires de visite. On est vraiment sur une réflexion de fond.
Comment faire face ? Dans l'Oise, Antoine, lui, doit redoubler de vigilance, veiller à l'entretien de son parc d'attractions sans cesse.
La chaleur, ça abîme beaucoup les machines. Les pièces plastiques, ils chauffent trop. Il n'y avait pas le même entretien. Il y a des choses que vous devez refaire tous les jours.
D'ici l'été prochain, le gérant réfléchit à installer de nouvelles attractions aquatiques, cette fois-ci peut-être plus adaptées à ce type de température.
La canicule gagne la quasi-totalité du pays. Seule la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord échappent à la fournaise. Les autres départements vont suffoquer. Aujourd'hui, il fait déjà 27 degrés à Porquerolles dans le Var et jusqu'à 40 degrés attendus à certains endroits, notamment en Nouvelle-Aquitaine. 38 degrés en Île-de-France aujourd'hui.
RMC 8h33, des maires à bout face aux occupations illégales de terrain par des gens du voyage.
De Plou-Arnel dans le Morbihan à Étretat en Normandie, plusieurs communes se retrouvent confrontées à l'arrivée massive de caravanes. Face à ces occupations, le maire de Toulouse appelle l'État à davantage de fermeté, car les élus que vous avez contactés, Marion Gauthier, se sentent impuissants.
Une centaine de caravanes, un chapiteau central planté sur son stade municipal en juin déjà et la semaine dernière encore.
Avec les cales des caravanes, avec les piquets, les auvents. Ah oui, le terrain, il est mort. Hein.
Laurent Winkelmüller est maire de Erlissem, près de Colmar.
On venait de le refaire, il faut qu'on le refasse et que ça va nous coûter à peu près 50 000 euros. Il n'y a pas d'aide, on est tout seul. Là.
Et à Toulouse, le maire Jean-Luc Moudinque le dénonce. Il propose notamment de confisquer des véhicules.
Si on veut qu'il y ait l'indemnisation des dégradations, il faut en quelque sorte un gage. Et là, on a un bien matériel qui est immédiatement saisissable.
Ce qui fait bondir Désiré Vermèche, le président de l'Action Grand Passage, qui regroupe des citoyens itinérants.
Mais saisir des véhicules, c'est bien, mais après, qu'est-ce qui fait des gens ? On va être des étrangers de l'intérieur.
Pour éviter les occupations illégales, dit-il, il faudrait plus de lieux d'accueil et décents.
Pas près d'une déchetterie, d'une autoroute, des endroits qui sont pollués, quoi. Ces aires sont des repoussoirs quand on va s'y mettre. Pour certaines, le citoyen lambda se mettrait pas.
Sentiment d'être dénigré collectivement, lui propose un état des lieux par un huissier à l'arrivée des caravanes et à leur départ.
Un touriste français victime d'une attaque antisémite à Rome. Il aurait été pris à partie en raison de sa confession juive. Le suspect, un Algérien de 31 ans, sans domicile fixe. Le ministre italien des Affaires étrangères a condamné fermement cette agression.
Une nouveauté pour les VTC, Clément.
Désormais impossible d'obtenir sa carte professionnelle sans passer par la case examen. Jusqu'ici, les chauffeurs pouvaient bénéficier d'une équivalence. Et Lucas Laubert, cette voie vient d'être supprimée par décret au journal officiel.
Jusqu'à présent, il était possible d'obtenir sa carte de VTC sans passer d'examen. Pour cela, il fallait justifier d'un an en tant que conducteur de transport de personnes au cours des 10 dernières années. C'est désormais impossible. Examen obligatoire. Une plutôt bonne nouvelle pour Brahim Ben Ali, secrétaire général FOINV, le syndicat majoritaire de la profession.
On a mis la pression pour mettre fin à ces équivalences parce qu'il y avait énormément de fraude. Il y en a qui amenaient des fausses fiches de paye, qui justifiaient d'aucune expérience et qui obtenaient donc du coup la carte par équivalence.
Cette mesure permet aussi de garantir un niveau homogène de qualification entre tous les conducteurs, justifie le gouvernement. Encore faut-il que la formation et l'examen montent en exigence, regrette le syndicaliste.
On demande à renforcer l'examen pour éviter que ce métier soit accessible à tous. Il y en a énormément qui ont la formation qui est complètement bâclée.
Les plateformes de VTC financent aussi de plus en plus les formations, de quoi selon lui garder un grand nombre de chauffeurs sur le marché, maintenir des prix toujours plus bas, au détriment de ces mêmes chauffeurs.
Bientôt la fin de l'histoire entre Monaco et Paul Pogba.
Le champion du monde 2018 n'a jamais réussi à retrouver son niveau depuis son arrivée en principauté. Il enchaîne les blessures et cela agace son club qui veut résilier son contrat qui devait initialement prendre fin l'été prochain. Maxime Tilliat.
Oui, les dirigeants monégasques veulent trouver un accord financier pour mettre fin au contrat de Paul Pogba. En cause, une nouvelle blessure ressentie ce mardi à l'entraînement. Le milieu de terrain est cette fois touché à la cuisse gauche après avoir longtemps été perturbé par son genou droit. Le pari réalisé l'été dernier semble raté. Monaco pensait pouvoir relancer la carrière du champion du monde 2018 et ce, malgré ses déjà nombreuses blessures, sa suspension pour dopage ou encore ses problèmes familiaux. Malgré une préparation physique adaptée, la pioche n'a joué que 6 bouts de match la saison dernière pour un total de 115 minutes. À 33 ans, l'ancien de Manchester United ou de la Juventus Turin n'arrive pas à retrouver la régularité du haut niveau. Son avenir semble désormais s'écrire loin du club de la Principauté.
Le PSG à la recherche de son premier trophée de la saison ce soir. Les partenaires de Marquinhos affrontent Aston Villa en Super Coupe d'Europe. Coup d'envoi à 21h à suivre sur RMC. Soirée spéciale en direct de Salzbourg en Autriche. Et vous l'avez vécu hier sur RMC, la première médaille d'or française au championnat d'Europe de natation décrochée sur le 4x100m 4 nages mixtes. Et Maxime Grousset a également décroché l'argent sur le 50m papillon. Les championnats d'Europe de natation, c'est bien sûr à suivre sur RMC, antenne spéciale de 18h à 20h.
Le quintet, Clément, à présent, il se déroule sur l'hippodrome d'Enghien et ce sera à 18h30.
Le pronostic de Frédéric Kita, son favori, le 14, Love You Fits, son outsider. Et le 12, le Quimélois.
RMC, 8h38. Merci Clément. Le prochain journal, ce sera à 9h. Dans un instant, le choix de la rédaction. Situation ubuesque. Nous sommes à Marseille, où la Poste refuse de déposer le courrier dans certaines boîtes aux lettres parce qu'elles sont trop éloignées de la voie publique. C'est dans un instant sur RMC et sur RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
RMC, 8h41. C'est une situation pour le moins désagréable que vivent certains habitants à Marseille. À Bonneven, dans le sud de la ville, les boîtes aux lettres d'une résidence flambant neuve restent désespérément vides. En cause, leur emplacement jugé trop éloigné de la voie publique par la Poste. Conséquence, pas une seule lettre destinée aux habitants n'a passé le pas de la porte depuis leur emménagement. C'était quand même l'hiver dernier. Philippine Boulet, les résidents sont donc exaspérés par cette situation.
Golnaz, une centaine de boîtes aux lettres en bois clair alignées. Seul problème.
Il n'y a rien dans les boîtes aux lettres, c'est vide. En fait, il n'y a jamais de courrier. On ne sait même pas qui est notre facteur.
D'après la Poste, les boîtes aux lettres sont trop éloignées de la route pour être livrées. Golnaz nous montre le chemin.
C'est la porte d'entrée. Maintenant, de ici à la route, hier on a fait une mesure de 55 mètres.
55 mètres donc, entre l'entrée de la résidence et la route, c'est 25 mètres de plus que la distance autorisée par la Poste.
Là on est sur le trottoir. Ce que la Poste voudrait, c'est qu'on mette des boîtes aux lettres tout le long de la route ici.
En attendant, le facteur repart avec les lettres, les colis, direction le Carré Pro, une agence postale.
Et il est déposé là-bas et on ne sait pas qu'il y a du courrier ou pas.
Golnaz a reçu plusieurs amendes sans en être informé.
Donc c'est resté au Carré Pro et quand j'y suis allée, j'étais arrivée au dépassement de PV et chaque PV me coûtait 300 et quelques euros.
Même problème pour Daniel, un voisin.
J'ai eu de recommander qu'ils ne sont jamais arrivés.
Pour récupérer son courrier, il doit s'assurer que l'agence est ouverte, marcher 150 mètres et monter plusieurs étages.
Ma femme est handicapée, donc elle ne peut pas aller chercher son courrier. Donc c'est moi qui fais les voyages. Souvent, vous y allez pour rien, parce qu'il n'y a pas de courrier. Et il y a des gens qui ne peuvent pas, j'en connais. Donc il y a d'autres voisins qui vont pour eux.
Face à cette situation, Daniel et plusieurs de ses voisins envisagent de manifester. Incompréhension également du côté des facteurs.
On pourrait organiser une distribution, ça me paraît pas inatteignable.
Yann Remelet, représentant régional du syndicat postal Sud PTT.
Les facteurs et les factrices sont de moins en moins nombreux et nombreuses, donc il y a plus de charges de travail pour chacun et chacune, il y a plus de kilomètres à parcourir, et avec au bout du bout, finalement, des injonctions à devoir faire des réglementations.
De son côté, la Poste affirme que, conformément aux exigences en vigueur, les boîtes aux lettres doivent être installées en bordure de route et qu'aucune dérogation n'est possible.
Merci Philippine Boulet, RMC 8h44. Dans un instant, le budget 2027 qui cherche 35 milliards d'euros, et pour y arriver, eh bien Bercy étudie une piste sensible: geler les retraites, ou plus exactement désindexer les pensions les plus élevées. Qu'en pense Éric Coquerel, député LFI, président de la commission des finances? Il nous répond dans un instant. Il est mon invité sur RMC et sur RMC Story. Bon réveil et à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Rémi Barret.
RMC 8h46, face au déficit, le gouvernement cherche 35 milliards d'euros. Et parmi les pistes étudiées à Bercy, la désindexation des retraites de l'inflation, des retraites les plus élevées. Une nouvelle année blanche, objectif affiché, ramener le déficit à 4,7% du PIB l'an prochain. Le projet de loi de finances sera présenté en Conseil des ministres le 30 septembre. Le gouvernement n'exclut pas d'utiliser le 49.3. Bonjour, Éric Coquerel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Éric Coquerel. Vous êtes député de France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Désindexer de l'inflation une partie des retraites les plus élevées, est-ce que c'est une solution?
Non, c'est évidemment pas une solution. C'est toujours en fait les mêmes recettes, c'est-à-dire que on va chercher, au nom de la réduction des déficits, à baisser les dépenses publiques. Donc on le fait de deux manières. Déjà, on a eu le cet été, en juillet, l'état des lieux, disons, des dépenses que pourront faire les ministères, et là il y a déjà à peu près une dizaine de milliards d'économisés, mais qui ont des impacts sur la vie des Français, j'y reviendrai après. Mmh. Et puis en plus, on cherche maintenant sur les prestations sociales. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement on ne frappe pas ceux qui ont bénéficié des années macronistes depuis fiscalement depuis 2017, mais surtout quand vous réduisez le pouvoir d'achat des retraités, vous réduisez la consommation. Et quand vous réduisez la consommation, vous réduisez la croissance de ce pays. Oui. Donc c'est des recettes stupides qui ne règlent rien et Éric, qui simplement augmentent les problèmes.
Éric Coquerel, malgré tout, il y a un déficit colossal qui ne cesse de s'accentuer. Il faut que chacun, en tout cas c'est ce qu'on entend, que chacun fasse des efforts. J'ai regardé encore ce matin, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, nous dit que en moyenne, le niveau de vie des retraités, souvent propriétaires, il est en moyenne de 6,5% plus élevé que celui de l'ensemble de la population, le niveau de vie des retraités. Donc il ne paraît pas aberrant que les retraités les mieux rémunérés, ceux qui ont les pensions les plus élevées, soient un petit peu mis à contribution. On ne parle pas de réduire de moitié leur pension de retraite, on dit simplement de ne pas les indexer sur l'inflation.
Mais encore une fois, on ne prend pas le problème par le bon bout. Là, vous me parlez des déficits. Alors, excusez-moi, je vais vous parler d'un autre sujet. Oui. Parce que manifestement, ce budget, moi j'ai demandé, vous savez, un budget rectificatif dès fin août pour anticiper les prochains incendies, les prochains épisodes de canicule où on est complètement, j'allais dire, à la rue, faute d'avoir investi comme on devait le faire depuis des années. C'est ça le problème prioritaire, à mon avis, du pays, c'est-à-dire un problème de déficit en matière d'investissement, et les Français voient bien ce que ça coûte. Ça coûte en victimes, ça coûte en économiquement, ça coûte très cher, j'allais dire matériellement, parce que comme on n'a pas anticipé, on est par exemple obligé de louer des Canadair à des heures impossibles, on est obligé de compenser à la va-vite ce qu'on n'a pas anticipé. C'est ça le problème numéro un. Et vous voyez que ce budget, qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle pas de tout ça, c'est-à-dire que le problème qui a été rencontré cette année par les Français, qui est prioritaire, il n'en parle pas. Ce dont il parle, c'est d'essayer de réduire les déficits.
Éric Coquerel, je rappelle que vous êtes président de la commission des finances, vous savez qu'on va droit dans le mur avec ce déficit quand même.
Non, oui, mais on va droit dans le mur avec la politique qui est menée. Parce que je remarque une chose, c'est que ça fait des années qu'on nous dit la même chose. On nous dit, on va baisser les dépenses publiques. Donc on le fait, on baisse quand même les budgets des ministères, des différents... Par exemple, ça fait 2 ans que le budget de l'écologie baisse dans ce pays. Est-ce que vous trouvez normal, dans les périodes que nous vivons, que le budget de l'écologie baisse? Bon, ça, c'est l'impact des politiques décidées. Donc on fait ça. Et quelles sont les conséquences? Économiquement, ça ne va pas, c'est-à-dire que il n'y a pas de relance de l'économie, on va bientôt à 8% de chômage, etc. Et ça se passe mal. Et la deuxième conséquence, c'est qu'en plus, les déficits ne baissent pas. C'est-à-dire que l'objectif atteint cette année, par exemple, très vraisemblablement, on sera 5,3, 5,4 de déficit, contrairement à ce qu'avait annoncé le gouvernement. Ouais. Donc vous voyez bien que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, attendez, laissez-moi juste répondre à la question que vous m'aviez posée. C'est que moi, ce qui me scandalise, c'est pas que des retraités aient 6% de pouvoir d'achat supplémentaire, que les Français qui ont un pouvoir d'achat moyen qui baisse, c'est par exemple le fait qu'il y ait des milliers de personnes dans ce pays qui ne payent pas d'impôts sur le revenu, qui payent à peu près sont à moitié moins imposés que la moyenne des Français et qui sont les plus riches. Et ça nous coûte des dizaines de milliards par an, ça a été organisé. C'est confirmé par un rapport dirigé par Charles de Coffron qui pousse aux gauchistes sur cette existence. Ouais. Vous voyez, ça me scandalise. Là, il y a de l'argent à aller chercher.
Éric Coquerel, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il suffit de prendre les titres de la dette et de les brûler, de les foutre au feu. Est-ce que franchement...
Il a pas dit ça comme ça, donc excusez-moi, mais ne réduisez pas la pensée de Jean-Luc Mélenchon sur la dette là-dessus. La question de la dette...
C'est quand même le sens de ce qu'il a dit dans la presse.
Non, il n'a pas dit ça, oui, bon, enfin, le sens... Il n'a pas dit ces mots-là, il n'a pas dit ces termes-là, il n'a pas dit ces choses-là. Donc moi, je vais vous dire la question. Aujourd'hui, la dette n'est pas un problème. Voilà, je vais vous dire autrement. Et ce qui n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre Roland Lescure interrogé à ma commission il y a peu de temps, où par exemple, j'émettais l'idée que pour un grand plan d'investissement écologique, on pourrait faire comme avait fait la Banque Centrale Européenne au moment de la crise du Covid, c'est-à-dire prêter directement aux États sans passer par les marchés. C'est ce qui s'était passé. Bon, moi, j'estime qu'on est dans la même situation d'urgence. La réponse de Roland Lescure à ce moment-là, c'était ne faisons pas quelque chose qui pourrait inquiéter les marchés, parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, au moment où je vous parle, ce ne sera plus le cas dans quelques années. À l'instant T, la charge de la dette et la dette de ce pays est largement digérée par le pays. Voilà, c'est ça la réalité. Et je vous enverrai, si vous pouvez aller vérifier cette audition de Lescure. Donc, la question aujourd'hui, arrêtons de laisser penser...
On fait peur aux Français?
Oui, bien sûr, on fait peur aux Français. Pourquoi on fait peur aux Français? Parce que ça fait des années qu'on fait peur aux Français au service d'une politique qui baisse les dépenses publiques, qui baisse les moyens des services publics, qui privatise et qui, en plus de ça, se permet des cadeaux fiscaux. J'en reviens, parce que ça, là-dessus, c'est pas quelque chose qui manifestement vous choque, à des milliers de personnes qui, elles, n'ont pas plus 6% de pouvoir d'achat par rapport aux Français. Elles ont doublé leur fortune depuis 2017 et ça veut dire près une fortune qui a augmenté de 600 milliards d'euros. Donc tout ça nous coûte beaucoup d'argent. Donc inversons cette donnée. C'est-à-dire que moi, ce que je crois qu'il faut faire, c'est d'abord partir des besoins.
On se préoccupe trop de la dette et il vaut mieux investir, notamment...
Exactement. On se préoccupe trop de la dette. Et comme on se préoccupe trop de la dette, on fait une politique dite de l'offre qui va avoir un impact négatif sur la consommation, notre économie en pâtit. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'on a des besoins d'investissement massifs en matière, je le répète, climatique. Malheureusement, c'est même plus pour gagner maintenant, c'est pour guérir, tellement on en est arrivé à une situation. Il faut mettre de l'argent. Cet argent va servir pour l'économie. Je donne un exemple. Si vous décidez demain d'avoir un très très grand plan d'isolation thermique des bâtiments...
Donc on rend la confiance aux Français. Rendant la confiance, ils vont consommer davantage et ça lancera l'économie.
Et ça va relancer l'économie. Et dans le même temps, cette croissance-là, il faut absolument l'appuyer sur une réforme fiscale qui fait que les plus riches arrêtent de payer moins d'impôts que la moyenne des Français.
Éric Coquerel, une dernière question. Vous demandez un projet de loi de finances rectificative pour les incendies et le rappel du Parlement. On en est où pour davantage de moyens pour les pompiers?
J'ai pas eu de réponse. J'espère en avoir eu parce que de ce point de vue-là, je sais que Sébastien Lecornu, pour en avoir discuté avec lui, est inquiet. J'espère en avoir une. Tout simplement, c'est très, très rationnel, ce que je veux dire. On sait qu'on va avoir besoin de milliards d'investissements pour le matériel d'incendie et pour la canicule, pour les prochaines, de l'été prochain. Si on attend janvier le budget de l'État, on sera en retard. Donc, je pense qu'il faut pas être en retard. Mais manifestement, pour l'instant, le budget de l'État, c'est un nouveau problème.
cet argent-là n'est pas prévu. Donc vous voyez bien qu'on ne règle pas les problèmes.
Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été avec nous, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. RMC, 8h55, dans un instant... Dans quelques minutes, le retour, je dis le retour parce que ça, je vais le dire toute la semaine, hein, c'est le
mais
retour
oui,
des GG.
Bien, mais y a, bien les sûr, GG on va continuer d'informer les auditeurs. Nous sommes là, nous sommes en direct
Alain
dans
Marchal.
Un instant. Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Salut Alain.
Avec, nous serons avec Laura Barton-Martinez, avec Abel Boyi, avec Antoine Diers, les grandes gueules en direct jusqu'à midi. De quoi va-t-on parler? On va continuer d'évoquer le cas de ces élus qui travaillent à la RATP avec le complément d'information qui est donné par le Canard Enchaîné. En fait, il y aurait 200 personnes, 200 élus franciliens qui travailleraient à la RATP, passés ou présents. Est-ce qu'on est face à un véritable scandale? Est-ce qu'il faut une mission de l'Assemblée nationale? Vous savez, c'est la suite de l'affaire Bali Bagayoko. Donc on en parlera dans les GG. On reviendra sur une proposition aussi d'un député qui est sapeur-pompier, Grégory Allione, de remettre des cendriers dans les voitures pour éviter peut-être les incendies. On regardera aussi ce qui se passe du côté des primes des fonctionnaires, monsieur Rondeau, justement. Ouais. Je sais, vous en avez parlé.
De mémoire.
543 primes. Est-ce qu'il faut faire le ménage? Mais si on enlève des primes, il faut aussi une compensation dans le salaire. Normalement, c'est comme ça qu'on fait.
45 euros pour des chaussures, on peut réfléchir.
Bah oui, mais enfin, en attendant, ça reste un avantage que vous percevez. Vous dites, si la prime n'est pas justifiée, vous avez un manque à gagner. Donc, on en discutera dans les grandes gueules. Vous prenez la parole avec nous au 32-16. Et puis, on parlera de l'éclipse, bien sûr. Alors, est-ce que c'était à l'État de fournir une partie des lunettes? Moi, je les ai, bien sûr. Est-ce que c'était à l'État d'en payer une partie, d'en mettre, je sais pas, quelques milliers sur le marché? Vous venez en discuter avec nous au 32-16.
Allez, dans un instant, les GG, 9h midi sur RMC Story. Et nous, on se retrouve demain dès 7h. Bonne journée.